Dans le tempo, c'est l'épisode 41. On commence juste après le générique. Ça va, Daz?
Oui, ça va très bien.
On a dit qu'on arrêtait les blagues. Je vais mettre ton
On arrête les blagues sur l'intro. Je ne dis plus rien, j'ai lu les commentaires.
On a dit que c'était saoulant.
Non, oui, c'est vrai. C'est vrai, alors que tes accroches sont systématiquement chatoyantes. Donc oui. Non, moi je ne dis plus rien.
On ne dit plus rien.
J'assiste juste à ton professionnalisme habituel.
On n'en a pas parlé d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs on n'en parle même pas.
On n'en parle même pas.
Je ne sais même pas de... Alors...
Oui.
Épisode 41, Salman.
Épisode 41.
Le temps passe comme les voitures. Qui est-ce qu'on reçoit aujourd'hui, Salman?
Écoute, nous avons face à nous Bovary, Léo, on peut t'appeler Léo pendant l'émission, que tu préfères Bovary, qu'est-ce que tu peux... Non, c'est quoi, toi?
On va partir sur Bovary.
Bovary, c'est vrai?
Ouais.
Ok, ton alias.
Je dis jamais mon prénom, je
t'avoue. Tu es en représentation, là,
c'est
comme ça.
Très bien. Pour le branding, c'est meilleur.
Très bien. Donc, effectivement, mesdames et messieurs, nous sommes avec Bovary, avec 2V Bovary.
Exactement,
merci. Très important, les 2V.
Très important, les 2V. Merci d'être avec nous.
Grand plaisir, merci pour l'invitation.
Ben, avec plaisir. Je vais te présenter un petit peu, parce que Daz, aujourd'hui, on va parler de ton réseau social préféré.
Oui, c'est ce que j'ai cru.
Est-ce que tu sais c'est lequel?
Alors mon réseau, mais vraiment, mais celui que je mets au-dessus de tous les autres,
ouais.
Parce que j'estime que c'est un réseau qui mérite l'attention, oui, qu'on lui porte. C'est TikTok, j'adore.
Oui, réseau satanique, c'est ça?
Oui. Alors non, je vais faire preuve de d'objectivité.
Oui.
Ça va changer un peu.
Ouais.
Du coup, je vais rester totalement neutre. C'est-à-dire que vous n'entendrez pas des petits.
Dans toute cette émission, tu ne vas jamais critiquer TikTok dans cette émission.
Jamais. Je suis, c'est pour montrer aux gens, notamment aux sponsors qui nous regardent, que je suis tout à fait sponsorisable aussi sur d'autres trucs. Hein, donc, moi, si on me dit, comme instruction, comme tu m'as dit,
ouais,
Daz, s'il te plaît, par rapport
mais
à TikTok,
j'ai pas dit ça.
Ouais, par rapport à TikTok, essaye d'y aller mollo quand même, parce qu'on sait jamais. Donc, moi, je respecte.
Tout est faux, je tiens à dire.
Non, effectivement, c'est un réseau que moi je ne connais pas trop,
ouais,
et que je ne souhaite pas trop connaître, mais je fais la différence entre le réseau et les artistes. Et ça, c'est important.
Merci. C'est important. Non, en fait, on va parler effectivement de TikTok parce que dans cette émission, on aime bien avoir des thèmes, etc. On parle parfois de streaming, des choses comme ça. Et il y a quand même un outil parmi les réseaux sociaux, enfin un réseau social en l'occurrence, qui se démarque dans le monde de la musique depuis pas mal d'années, c'est TikTok.
Clairement.
Il se trouve que Bovary, tu es créateur TikTok.
Oui.
Tu fais du contenu, t'as 500 000 abonnés sur TikTok.
Oui.
Tu fais du contenu musical, notamment. Comment tu présentes un peu toi ton contenu? Je pourrais le faire, mais comment toi tu peux t'aimes bien te présenter?
C'est des vidéos didactiques et un minimum drôle. J'essaie de mettre un peu d'humour dedans aussi pour. Ouais, c'est des tutos musique en fait, tout simplement.
Ouais. C'est-à-dire que tu prends notamment des grands tubes, tu les dissèque un peu en disant je les reproduis, voilà comment on fait, ou je m'inspire du style, parfois tu remixes, des choses comme ça.
C'était mon format qui m'a fait décoller entre guillemets, c'était vraiment je prends un morceau du moment, mm-hmm, et je le décompose et je montre comment il a été fait, quoi.
Okay.
En gros.
En parallèle de ça, alors historiquement, tu travaillais avant dans l'industrie musicale, pour un label, donc tu as un regard affûté quand même sur le monde de la musique, j'imagine, en tout cas ça t'intéresse.
J'étais au cœur du monde, ouais. C'est ça.
Et puis, évidemment, on le voit à travers ton contenu, t'es musicien, producteur, d'ailleurs c'est une activité que tu développes de plus en plus en parallèle, tu produis pour des artistes, pour des sorties, etc.
Ouais,
et j'imagine que TikTok d'ailleurs était peut-être aussi un moyen pour toi de pouvoir te professionnaliser en faisant vraiment purement de la musique.
C'est ça, ouais. TikTok, c'était pour moi la vitrine parfaite du moment. C'était genre l'endroit où fallait être à ce moment-là pour avoir de la visibilité, justement. Après, je vais pas mentir, j'avais pas de plan précis de ce que j'allais faire après, mais c'était juste une bonne vitrine et ça m'a apporté toutes les opportunités que j'ai eues ces 2-3 dernières années, on va dire.
Ouais. Est-ce que tu te définis comme, genre, sur ta carte de visite, si t'en as une, est-ce que tu mets, TikTokos ou
pour un moment on va dire créateur de contenu slash on dit comme ça maintenant.
Créateur de contenu
slash producteur, on va dire.
Ok.
J'ai même présenté comme ça.
Mais tu précises nulle part que tu sais les gens aiment bien mettre 500 000 abonnés sur TikTok.
Je l'ai mis sur mon Insta. Alors je sais que ça fait un peu prétentieux ou je sais pas quoi, mais je vois de plus en plus de gens le faire dans leur bio. Il y a marqué 500 000 TikTok, voilà, 500K. Et en fait je me suis dit en fait c'est pour les marques.
Ouais.
Pour les partenariats de marque, c'est cool de montrer que voilà.
Ok.
C'est pas juste pour montrer à les gars, regardez.
Flex.
Ouais, voilà. C'est vraiment.
C'est juste pour l'argent.
C'est pour les frais. Ah, je fais tout ça pour le pognon. Ouais. Exactement.
On va essayer. Ouais. En gros, j'avais envie de consacrer un épisode à TikTok parce que les gens qui nous écoutent ont forcément entendu dans l'actualité des choses autour de TikTok, notamment des polémiques, parce qu'il y en a aussi des polémiques.
En ce moment, oui, beaucoup.
D'un point de vue politique, par rapport au traitement des données, etc. Il y a une forme de défiance qui existe vis-à-vis de TikTok. Par contre, il y a un monde, un métier dans lequel, très clairement, on a embrassé TikTok avec grand plaisir, c'est la musique. Parce que beaucoup d'artistes, beaucoup de labels, l'industrie musicale, beaucoup d'indépendants aussi, de gens simplement qui souhaitent proposer leur musique, leurs pratiques, etc. À plein de gens, et ben passent par TikTok. Et c'est devenu un
la
réseau,
porte d'entrée,
peut-être même le réseau le plus influent de la musique, j'ai l'impression aujourd'hui. En tout cas, le plus
Clairement, clairement.
Peut-être avec YouTube quand même un petit peu, parce que.
Bah, YouTube pour le clip, etc. Mais en tout cas, en termes de
viralité, etc. Bon,
ouais, ouais. Et au-delà même en fait de la réalité de ce qui se passe dans le fantasme de beaucoup de gens, TikTok est devenu le goal, un objectif quand tu fais de la musique.
C'est la première fois qu'on a des titres maintenant qui ont émergé grâce à TikTok. On n'avait pas ça avant. T'avais pas genre un titre qui a émergé grâce à Facebook. Enfin, je crois pas.
Non,
on disait, on disait pas ça, tu vois. Et maintenant, dans les top streaming, de plus en plus, enfin, c'est arrivé d'un coup. Tu voyais le top streaming et d'un coup, tu voyais un titre qui sortait et alors que le mec, on le connaissait pas trop. Et en fait, c'est juste parce qu'il avait pété sur TikTok un mois avant, quoi. Et ça, c'est ça a changé beaucoup de choses, ouais, clairement.
Il y a un truc qui illustre assez bien, qui est de l'actualité en plus, l'influence de TikTok. Je sais pas si vous avez suivi, mais Spotify vient d'annoncer une nouvelle interface très récemment.
Ouais, carrément.
Entre autres changements sur lesquels on reviendra peut-être un jour, parce que les trucs très intéressants, notamment par exemple le fait de pouvoir céder une partie de ses royalties à Spotify en échange d'une mise en avant. Assez ils ont annoncé ça. Je sais pas si ce sera mis en place, etc. Mais en tout cas, c'est un principe de promotion assez étonnant, dont on pourra parler, parce que ça fausse un peu les choses. Ouais. Bref. Mais entre autres, ils ont aussi annoncé le fait que leur interface, ils allaient proposer une interface avec un scroll infini, c'est-à-dire qu'on pourra glisser comme ça de titre en titre avec de la vidéo, donc très clairement inspiré par TikTok. Alors Instagram fait aussi des choses comme ça, etc.
Facebook aussi, YouTube avec les shorts.
Exactement. Mais en tout cas, ce modèle de navigation, il me semble qu'il provient quand même principalement de TikTok.
Ah oui, clairement. Ouais. C'est eux qui sont arrivés avec ce format-là, ils ont été copiés par Insta en premier avec les Reels, ensuite les YouTube Shorts, effectivement. Les Facebook Reels aussi, pareil. Et même Snapchat, ils ont les Spotlight, ils appellent ça.
Ok.
Donc c'est partout, quoi. Ce format, il a vraiment... c'est le format phare du moment, clairement.
Scroll of Doom.
C'est vrai, le scroll sans fou.
Oui, avec la lecture automatique, etc. Mais ce qui va être très étonnant pour du Spotify, j'attends de voir. J'espère d'ailleurs que ce sera seulement une des possibilités d'interface qui aura encore l'interface classique.
Apparemment, il y a des gens, c'est pas du opt-in opt-out, hein. C'est tu l'as ou tu l'as pas. Moi, je l'ai pas encore.
Moi, je l'ai pas.
Ouais, mais il y a des gens qui ont commencé déjà à se plaindre. Alors après, c'est sur Twitter. Ouais. Du coup, c'est normal, parce que sur Twitter, on se plaint. Mais
si c'est optionnel, franchement, pourquoi pas, moi, d'avoir ce type de navigation, tu vois, avec le truc qui se lance directement. C'est pas ce que je préfère, mais ça peut être complémentaire d'une autre utilisation, en fait.
Mais parce que c'est quel type de vidéo qu'ils veulent mettre sur Spotify?
Ce sera du clip. Tu sais, ils le font déjà beaucoup, sur les gros tubes, en tout cas.
Oui.
Même si c'est pas vraiment un clip, c'est un espèce de gif presque, un truc qui tourne, etc.
Un extrait du clip, généralement, qui
ça peut être un extrait du clip, ou parfois même des créations originales spécifiquement pour les plateformes audio. Et en gros, voilà, c'est tu scrolls, ça se lance automatiquement, etc. Tu peux le faire avec les playlists, avec des titres, etc. Bon, on verra qu'on sera vraiment mis en place en France partout. Mais en tout cas, voilà, ça illustre le fait que TikTok aujourd'hui est devenu essentiel, qu'on s'inspire de ce modèle. Et on va essayer de proposer dans cette émission une forme de synthèse avec toi, Bovary. Du bouleversement, de genre en quoi ça consiste TikTok, pour ceux qui maîtrisent un peu moins, parce que c'est vrai que c'est un réseau en plus particulièrement jeune, on va le voir, et donc tout le monde n'a peut-être pas lancé déjà TikTok parmi nos auditeurs et nos spectateurs.
Ni autour de cette table.
T'as jamais lancé TikTok?
Bah, je l'ai pas installé, parce que moi je suis contre l'espionnage industriel.
on va dire les termes dans cette émission.
non, justement, j'essaye de... Je peux pas être partout.
C'est vrai.
Je suis beaucoup trop sur Twitter, beaucoup trop sur Instagram, beaucoup trop sur Twitch. Si je mets TikTok en plus, c'est terminé, j'ai plus de vie, donc j'ai passe.
Commençons les gars avec une toute première partie où on va rappeler un peu les bases de TikTok et puis pour quelle raison ce réseau est si lié à la musique. Est-ce que Bovary, tu peux nous expliquer un peu si ce n'est les origines de TikTok, à part si tu la connais.
Moi
je la connais.
Nous raconter un peu d'où ça vient et en quoi ça consiste, en quoi c'est un réseau social un peu différent.
Alors, d'où ça vient? Je crois que c'est 2016. Ouais. Ça commence par l'application Douyin, qui est créée en Chine par l'entreprise ByteDance.
Okay. Donc,
ByteDance qui crée Douyin.
Même, aujourd'hui.
C'est ça, exactement. La maison mère, je crois, de TikTok. Donc, il crée Douyin en Chine, qui est le TikTok chinois, en gros. Et à côté de ça, il crée, un an plus tard, je crois, il crée TikTok pour les marchés hors Chine, quoi.
Ça s'appelait pas Musical.ly
Il va nous expliquer.
Justement, donc il crée Douyin pour les Chinois et TikTok pour le reste du monde, en gros. Ce qui est, en fait, les Chinois n'ont pas TikTok d'ailleurs. Ils ont Douyin. Une TikTok n'existe pas en Chine. Et à côté de ça, qui existait avant, d'ailleurs, il y a une autre application qui s'appelait Musical.ly, créée par une autre entreprise chinoise. et qui se fait racheter en je sais plus quelle année, je dirais 2018, un truc comme ça.
Je crois même que c'est 2017.
Peut-être.
Mais en gros, c'était, en fait, c'était un concurrent, c'est-à-dire que ça faisait à peu près la même chose que Douyin TikTok. Quoi.
Musical.ly, c'était.
C'était faire du playback, non?
C'était que des c'est ça. C'était des vidéos de 15 secondes où tu faisais, tu choisissais un son et tu faisais du playback. Enfin, tu faisais ce que tu veux avec le son, en gros, sur le son.
Donc la musique dès la base est essentielle sur les plateformes.
L'appli s'appelle Musical.ly déjà, de toute façon, donc ça donnait la, voilà. Et donc ça a été racheté par TikTok, qui a donc fusionné Musical.ly avec TikTok, et ça a donné le TikTok qu'on connaît aujourd'hui.
Ok.
Et à partir de là, ça, il y a tout qui s'est accéléré, quoi. Ouais. Ça commence à conquérir le monde.
Est-ce qu'on peut dire, moi j'ai cru comprendre qu'en gros ça commence à bien marcher, et vraiment 2019, autour de 2019, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un gros boom. 2019, ça devient la deuxième appli la plus téléchargée dans le monde.
Ouais.
Et à partir de 2020 et jusqu'à aujourd'hui, c'est la plus téléchargée dans le monde à chaque année.
Il me semble,
C'est assez dingue. C'est vraiment un phénomène.
C'est fou.
Comment expliquer comment ça se passe un peu? Qu'est-ce qu'on trouve comme type de contenu? À quoi ça ressemble TikTok? Et est-ce que tu disais que dès l'origine, beaucoup de musique avec ces lip dub, enfin, ces lip sync, etc., tous ces trucs où tu chantes par-dessus, quoi, en gros. Tu fais semblant de chanter. Est-ce que très vite ça se diversifie? Est-ce que la musique reste essentielle? Et comment on navigue? Enfin,
alors moi, j'ai un point là-dessus.
Ouais.
Je crois me rappeler que dans le game des réseaux sociaux, TikTok était celui qui a mis très vite en avant le body positive, l'inclusion, la bienveillance.
Ah, peut-être.
Et que du coup, c'était rassurant pour beaucoup de gens d'aller sur TikTok parce que justement, il n'y avait pas de jugement. C'est-à-dire que c'était tout le temps que du positif, tu vois.
Ça expliquerait une partie du succès, tu veux dire?
Ouais, à fond. En fait, ça a vachement pris, notamment aux États-Unis à cause de ça, parce que justement, tu pouvais te dire, je vais faire un truc sur TikTok et je me ferai pas chambrer, il y a pas de haters, il y a pas tout ça.
C'est totalement vrai. Hein. Et ce qui n'est plus, c'est, j'ai vu un peu l'évolution du coup, mais je suis limite nostalgique du TikTok 2020.
Parce que toi, tu t'y mets quand, toi, TikTok?
Été 2019, exactement, mon premier TikTok. Ouais. Et c'est vrai, comme tu dis, Daz, au début, c'était que de l'amour, quoi.
Ouais,
tu postais sur TikTok, c'était genre, ah, oh, trop bien ce que tu fais et tout.
Exactement.
Pas de haine du tout. Maintenant, c'est plus tout le cas.
C'est vrai, ça a changé.
Bah, ça s'est twitterifié, on va dire.
Oh, punaise.
Ouais. Il y a un peu plus il y a beaucoup plus de monde, en fait.
Oui, donc forcément.
Beaucoup plus de haters. Moi, ça va, je m'en sors bien, mais c'est vrai qu'au début, 2020 et tout, c'était vraiment le bisounours, quoi.
Positif,
ouais, vraiment.
Concrètement, Bovary, parce que tu vois, réseau social, en fait, ça peut englober plein de choses, plein de pratiques extrêmement différentes. Twitter n'est pas Instagram, qui n'est pas Facebook. Et j'ai envie de dire même que TikTok se démarque encore, se rapproche presque d'un YouTube, par exemple, ou en tout cas d'un modèle assez différent. Tu peux nous parler un peu de comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on trouve sur TikTok? Une fois que tu lances l'appli, qu'est-ce qui se passe?
Bah déjà, je crois que c'est quand même eux qui ont inventé ça, le fait que tu ouvres l'appli et direct, tu te prends une vidéo dans la gueule, quoi.
Okay.
Tu consommes, en fait, tu ouvres l'appli. Et t'arrives pas, y a pas une page d'accueil où tu dois choisir ce que tu vas regarder et tout. Okay. Direct, bam, on te file une vidéo.
L'expérience commence, quoi.
Ouais, direct. Et donc, et après, t'arrives sur une première vidéo, format vertical qui prend tout le téléphone.
OK.
Et ensuite, c'est, si tu veux passer à la vidéo suivante, tu scrolles vers le haut. Et en fait, c'est un feed infini. Tu peux faire ça pendant toute ta vie, quoi.
Avec des vidéos qui s'enchaînent.
C'est ça. Que des vidéos qui s'enchaînent. Alors, au début, c'était 15 secondes maximum, au tout début. Après, ils sont passés très vite à 1 minute. Ensuite, ils sont passés à 3 minutes. Et maintenant, c'est 10 minutes maximum.
OK.
Voilà.
10 minutes, ce qui entend TikTok est à peu près...
C'est énorme.
C'est ça. Ouais. Et du coup, oui, ils ont inventé ce format des vidéos très courtes que tu peux enchaîner à l'infini, comme ça, non-stop, quoi.
Il y a un truc marquant sur TikTok, c'est que c'est beaucoup moins basé sur les abonnements, etc. Tu te laisses beaucoup plus guider par l'algorithme que typiquement Instagram, où tu pourrais suivre particulièrement des pages, Twitter un peu pareil.
Avec les Reels, Instagram fait exactement pareil.
C'est vrai aussi.
Du contenu ils sont inspirés. Forcément sollicité. Mais c'est vrai que je me posais la question, est-ce que sur TikTok tu t'abonnes à des créateurs ou est-ce que en fait
moi personnellement ou les gens?
Bah les gens, enfin
Oui, mais effectivement t'as raison, Salman, en fait ils ont foutu la merde clairement parce qu'ils sont arrivés avec effectivement au début les algorithmes c'était très basé sur les abonnements, genre tu regardais ton feed Instagram, tu voyais quand même en priorité les gens avec qui t'es abonné.
Absolument.
TikTok, tu te connectes sur TikTok, c'est l'algorithme est basé sur tes intérêts cette fois-ci et pas sur tes abonnements. Donc
d'accord.
Tu peux très bien te prendre une vidéo d'un mec que t'as jamais vu de ta vie, mais tu vas te prendre cette vidéo juste parce qu'il parle d'un sujet qui normalement est censé t'intéresser d'après l'algorithme. Et donc ça a ses côtés positifs, ses côtés négatifs. Mais du coup, c'est vrai que l'abonnement est devenu quand même moins important qu'il y a quelques années.
Bah parce que en fait, moi j'ai l'impression que alors toi tu dis que t'as 500 000 abonnés, mais c'est vrai que sur TikTok, je voyais surtout la mise en avant du nombre de vues. Tu vois, les gens, c'était un peu des milestones. Genre, ok, j'ai fait 1 million de vues sur une vidéo sur TikTok. Et c'était plus ça que les gens, que les créateurs, en tout cas, mettaient en avant, plus que le strict nombre d'abonnés qui, normalement, te sert à évaluer le reach d'une personne. Parce que j'ai cru comprendre que sur TikTok, tu pouvais avoir un très grand écart entre les vues que tu peux avoir sur une vidéo versus les abonnements que tu as.
Oui.
Alors que normalement, c'est un peu proportionnel. C'est-à-dire que si tu fais 1 million sur YouTube, c'est que t'as quand même 100, 150 000, 200 000 abonnés.
C'est vrai ça, ce que raconte Daz, ouais.
C'est tout à fait vrai, ouais. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que ça a été genre un peu l'Eldorado en 2019-2020, cette période-là. Premier confinement, typiquement, c'est là où beaucoup de gens ont explosé sur l'appli. C'était un peu l'Eldorado parce que tu pouvais avoir 10 abonnés et faire quand même 500 000 vues sur une vidéo, quoi.
Voilà,
ce qui était totalement impossible ailleurs. Et c'est avec cet algorithme dont je parlais, qui est basé plutôt sur les intérêts, que tu pouvais faire ça. C'est grâce à ça, quoi.
Parce que cet algorithme, donc, en fait, quand tu lances l'application, tu tombes sur une catégorie qui s'appelle pour toi.
Exactement.
Et le pour toi, c'est là où tout s'enchaîne. Après, tu peux aller spécifiquement faire des recherches, chercher un abonnement, chercher quelqu'un, voir sa page, tout ce qu'il produit. Mais j'ai vu que 74% des vues, alors peut-être que le chiffre est autour de 70%, parce qu'il y a plein de statistiques différentes qui existent, mais en gros, autour de 70% des vues proviennent de pour toi. Donc, ce qui explique l'écart, en fait, tu sais, entre aller sur la page, s'abonner, regarder vraiment ce que produit cette personne spécifiquement, et juste se laisser porter par l'algorithme, avant tout à travers le pour toi, qui représente la grande majorité des vues en réalité, quoi.
Tu vois, en fait, tout l'objectif, c'est d'arriver dans les pour toi. Vous voyez souvent sur une vidéo TikTok, il y a le hashtag for you ou pour toi.
Okay.
Ce qui ne sert strictement à rien, d'ailleurs, mais.
On sait jamais.
Bah, c'est ça. Les gens le mettent au cas où, et c'est censé t'aider à aller dans cette fameuse page pour toi, qui est vraiment le but ultime quand t'es sur TikTok, quoi. Parce qu'une fois que t'es dedans, tu vois ton nombre de vues qui grimpe direct.
Comment t'expliques que ce soit, parce que d'après le principe qu'on vient d'expliquer, on comprend son succès. Aujourd'hui, il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde.
Ouais.
En France, il y en a plus de 10 millions, il me semble. Enfin bon, c'est monstrueux comme phénomène. Pourquoi, c'est pas le seul contenu qu'on y trouve, la musique, hein, mais pourquoi ça a matché, la musique? Alors, est-ce que c'est tout simplement le fait que c'était dans l'ADN, initialement, déjà, avec les lip-sync, etc. Et comment ça s'est développé petit à petit? Qu'est-ce qu'on trouve comme contenu musicaux? Et pourquoi c'est si lié à la musique, TikTok?
Bah, déjà, ils ont quand même inventé le truc, si vous regardez une vidéo TikTok, il y a l'espèce de petit CD, là, en bas à droite, qui tourne.
OK.
Et, non, tu vois
je
pas?
Je vois pas, non.
Ah, OK. Bah, tu regardes une vidéo TikTok, il y a toujours l'audio de cette vidéo qui est
précisé titre du morceau.
En bas. Et tu tapes sur ce logo là, ce CD, et ça t'emmène sur toutes les autres vidéos qui ont été faites avec ce son. Et ça, c'est eux qui ont inventé ça. En fait, il y avait pas ça avant. Donc déjà, je trouve que l'audio a été direct très mis en avant.
Ok.
Et puis, comme on disait tout à l'heure, ça vient de Musical.ly. Musical.ly, c'était, je crois que t'étais obligé de mettre que de la musique, il me semble. Et du coup, forcément, il y avait des.
Oui, c'est dans le.
C'est dans l'ADN, quoi. Ça partait. En tout cas, ça part de là, quoi. TikTok, ça part de là. Et après, maintenant, il y a tout, quoi. Maintenant, c'est YouTube. Hein. De toute façon, tu peux faire des tutos en bricolage ou jeux de cuisine, il y a absolument tout, absolument tout.
Mais du coup, les fonctionnalités de montage, parce que c'est des vidéos courtes, donc ça veut dire que l'application te propose aussi un panel d'outils pour réussir à cutter ta vidéo proprement, etc., sans avoir à sortir de l'application. Parce que ça aussi, c'est un truc qui est assez spécifique à TikTok, c'est que sur les autres réseaux sociaux, quand tu voulais commencer vraiment à éditer ta vidéo, en plus de simplement mettre des filtres, mais vraiment la cutter, machin, etc., il fallait que tu sortes et que tu fasses autre chose, que tu utilises d'autres outils, alors que TikTok, ils arrivent avec un toolkit qui est quand même assez assez puissant. En plus des filtres qui sont incroyables aussi.
Donc, tu veux dire qu'en tant que créateur, tu vas dans l'application et très facilement tu fais une vidéo un peu produite grâce aux outils.
T'as pas besoin de sortir et c'est très notable quand tu vois des jeunes. Et là, je parle des petits, hein, des enfants. Quand tu vois les jeunes utiliser le truc, parce que justement pour eux c'est tellement naturel de faire du montage. C'est ça que je trouve assez admirable quand même, malgré le fait que j'aime pas le réseau. C'est que ça donne des notions de montage, de découpage dynamique, etc. À peu près tous les utilisateurs qui vont du coup essayer de faire des vidéos les plus percutantes, les plus impactantes. Alors après, on pourra parler du « bah oui, mais du coup, toutes les vidéos se ressemblent, ok ». Mais il n'empêche que avant ça, t'avais pas des petits qui lançaient un After Effects ou un Adobe Premiere pour faire du montage vidéo, tu vois.
Ouais,
et là, en fait, c'est l'application qui te met ça à disposition et c'est assez puissant en vrai.
Ce qui n'est absolument pas le cas de YouTube par exemple où tu dois tout faire en externe.
Ouais, ouais bah, t'as des petites fonctionnalités de découpage mais c'est très très light.
Avec les shorts quoi.
Avec les shorts mais qu'ils sont adaptés en fait face à TikTok. Mais historiquement tu dois faire ta vidéo dans ton logiciel de montage machin, après tu l'uploades.
C'est ça. Ouais. Les barrières d'entrée pour devenir créateur sur TikTok étaient ridicules en fait par rapport à YouTube. Pour devenir YouTuber, et comme tu dis, fallait Final Cut, Adobe et tout, fallait maîtriser un minimum le son, les prises son et tout.
Ouais.
Là, TikTok, c'est juste avec ça.
Toi, tu fais tout avec ton téléphone?
Alors non, moi pour le coup, j'exporte et je fais dans Final Cut.
Okay.
Ah, parce que je trouve ça plus simple pour moi en tout cas. Mais effectivement, il y a plein de créateurs TikTok qui font juste avec ça. Et il y a la fameuse application CapCut aussi, qui appartient à ByteDance.
Okay.
Et qui t'aide à faire tes montages et aussi à rajouter des sous-titres. En vrai, c'est incroyable cette appli. Tu fais sous-titres automatiques et ça détecte ce que tu dis et ça met les sous-titres et ça marche très bien.
Ouais.
Tout le monde utilise ça maintenant. Mais tout est fait. En fait, ils ont été très forts parce qu'ils sont arrivés avec ça, effectivement, et tout était facile, quoi.
Ouais,
tu pouvais créer facilement. Et il y avait zéro barrière d'entrée, quoi, pour devenir créateur sur la plateforme. Et je pense que c'est ça qui a plu aussi au début.
Parce qu'il y a peut-être pu faire grincer quelques dents justement pour les gens qui se disent bah c'est quand même un métier de monter une vidéo etc. Parce que tu vois c'est toujours pareil en fait quand tu facilites quelque chose forcément
tu
bousilles un métier.
J'ai quand même le sentiment que à l'inverse de beaucoup de réseaux, YouTube par exemple, enfin, en réalité il y a les deux qui coexistent sur YouTube, mais globalement la production value ou en tout cas la plus-value qu'apporterait un très beau montage, un truc très chiadé, etc., c'est pas forcément ce qu'on recherche sur TikTok, j'ai l'impression.
Ah non, du tout. Ouais. Moi je pense que c'est même l'inverse.
Ouais.
Après, il y a différents courants. Il y a des mecs qui se filment en caméra très bonne qualité sur TikTok et tout, et ça marche très bien pour eux aussi. Mais c'est vrai que je trouve l'ADN de TikTok, c'était quand même le côté très homemade.
On triche pas, on le fait avec les moyens du bord. Et,
Après, t'as aussi des filtres TikTok qui font que t'es beau gosse aussi, tu peux blanchir les dents et tout. Je pense en vrai ça décomplexe beaucoup de gens aussi, je pense, à poster sur la plateforme.
Mais il y a d'ailleurs un truc là qui, enfin, il y a une polémique en plus de la polémique politique pure. Il y a une polémique sur justement le filtre, le dernier filtre à la mode qui lisse les visages et rajoute du maquillage. Et qui le fait avec une intelligence artificielle, alors qu'avant c'était avec un mesh 3D.
Okay.
Donc avant, en fait, notamment les femmes, parce que c'est sur les femmes que ça s'applique beaucoup. Tu sais, quand il y avait un filtre, elle mettait la main devant le visage et du coup
Et tu voyais que ça marchait
plus. Et là, apparemment,
c'était une espèce de masque qu'on appliquait par-dessus.
C'était un masque en 3D qui était appliqué sur le visage. Okay. Et donc dès que tu mettais un truc devant le visage, bah du coup le truc fonctionnait plus. Alors que là, avec le dernier qu'ils ont mis en place. En fait, ça marche même avec les mains devant et c'est vraiment bluffant. Et du coup, la polémique, c'est que ça force les gens à comprendre que sans ce filtre-là, ils sont pas beaux. Tu vois, donc ça va à l'inverse un peu de l'esprit body positive qu'on pouvait avoir au début de l'émergence de TikTok, dans le sens où maintenant on te fait comprendre que la beauté c'est ça, et si tu l'as pas, t'es pas belle en fait.
Des standards.
Ouais, des standards parfois inatteignables. Hein. Et c'est vrai que c'est bluffant. C'est pour ça que moi je suis très intéressé par l'application sur les aspects techniques, parce que c'est vraiment fort ce qu'ils font, c'est très très fort. Ouais. Des trucs aussi pointus à mettre dans les mains d'autant de monde, de manière transparente, en vrai c'est un rêve de dev, d'ingénieur, réussir à pousser ces usages-là sans que les gens aient l'impression de le faire, c'est ce que tous les techos ils veulent faire en fait, tu vois. Donc ça c'est très 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 intéressant, mais effectivement il peut y avoir des dérives et des changements au niveau social. Quoi.
Et qu'on retrouve d'ailleurs aussi sur d'autres réseaux. Parce que les filtres, on les trouve sur d'autres réseaux.
Bien sûr, la beauté
sur Instagram, par exemple, où l'image est très mise en avant, c'est un truc qui peut être problématique aussi. C'est régulièrement critiqué, etc. Mais tu as raison, TikTok se distingue aussi.
C'est très très fort.
Pour revenir à la musique, tu me dis si t'es d'accord, mais j'ai l'impression qu'il y a un élément aussi qui fait que très vite, les musiciens, l'industrie, etc. sont emparés de l'outil. C'est le fait que TikTok pousse à reproduire énormément les choses, à les décliner, à reprendre un morceau et jusqu'à l'infini, quasiment, autour de jeux notamment, autour, tu vois, de challenge, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces fonctionnements, les différents types éventuellement de façons de reproduire des sons? Tu vois qu'il y a 3000 vidéos qui reprennent le même son avec un système autour. Comment ça marche?
C'est lié à ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'audio en bas. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui fasse un TikTok avec une chanson.
Ouais.
C'est très facile de justement, tu cliques sur ce son et tu fais une vidéo toi-même avec ce son.
Okay.
Donc forcément, tout est fait pour que la création de contenu soit facile autour de ce titre-là. Et ils ont quand même inventé des trucs formidables, TikTok, les duos et les collages. Je sais pas si vous voyez ce que c'est.
Explique peut-être à nos auditeurs.
Duo, c'est tout simplement, tu tombes sur une vidéo. Je sais pas, quelqu'un qui joue de la guitare,
ouais.
Et tu peux faire, ok, j'aime bien cette vidéo, duo, Et du coup, toi, tu te filmes et tu chantes par-dessus sa vidéo. Du coup, il y a cet aspect collaboratif alors ouais. qu'il y a quelqu'un que t'as jamais rencontré de ta vie et tout. Donc c'est beau, en vrai, c'est cool.
Ouais.
Et tout est fait pour que le contenu soit facile à créer, encore une fois. Et il y a le collage aussi, le format collage, où là, c'est tu tombes sur une vidéo et tu fais collage et tu peux, en gros, mettre les, je sais plus, je crois que c'est les 5 premières secondes de la vidéo de l'autre et ensuite enchaîner avec ta vidéo. Donc c'est un peu genre une réponse, tu vois.
Ouais, ça c'est très, beaucoup de trucs humoristiques là-dessus.
Exactement, ouais.
Mais du coup, ça veut dire que, implicitement, dès le départ, quand tu postes un truc sur TikTok, t'es OK pour que ça soit réutilisé à l'infini par d'autres gens.
Tu peux cocher ou
tu peux dire ouais, si tu veux dire, pas de duo, collage, pas de collage.
Ouais,
OK.
Exactement. D'accord. Ouais. Donc ça se choisit ça. Ouais.
Et par rapport à tout ce qui est challenge, chorégraphie, etc., tu peux parce que j'ai l'impression que ça participe aussi au fait de rendre viral un morceau parce que en fait on reprend le même morceau et on fait des danses dessus,
bien sûr, etc. Ouais. Ah ça c'était les clichés de TikTok, c'est moins le cas en
c'est
fait
moins
aujourd'hui.
C'est moins le cas aujourd'hui.
Ouais. Okay. Genre je pense aujourd'hui tu dis t'es en maison de disque et tu dis ouais, on va faire un challenge danse sur cette musique, je pense que ça fait un peu ringard.
Ouais.
C'était un peu 2020. Quoi. C'est pas très vieux en vrai.
Ça fait 3 ans. Voilà, voilà.
Mais c'est déjà un peu à TikTok à l'ancienne, je trouve. Ouais. Mais effectivement, début de TikTok, c'était très chorégraphie. T'avais des dance challenges. J'en ai aucun qui me vient en tête. Là, je suis désolé. Ouais. Mais t'as des titres qui où il y avait un challenge de danse, donc il y avait une choré.
Ouais.
J'ai envie de dire. Weshden, c'était pas une chorégraphie.
Il y avait pas genre Jérusalem ou des trucs comme ça.
Ouais, effectivement. TikTok. Ouais. T'as raison. Ouais.
J'ai un exemple comme ça, okay. C'est fou. C'est un morceau de Drake qui s'appelle Tootsie Slide.
Oui, complètement.
Et en fait, Drake, Tootsie, c'était un créateur qui faisait des TikTok, entre autres, et qui faisait de la danse, etc., il me semble. Et en fait, Drake a senti le filon et s'est dit, bah, je vais faire un morceau qui soit TikTokable avec une chorégraphie extrêmement simple. Ouais. Je vais même faire référence à ce créateur de contenu, Tootsie, donc ils ont appelé ça le Tootsie Slide. Et en fait, il a fait un clip, etc., puis après des vidéos TikTok, où il fait une chorégraphie vraiment ultra basique que tout le monde peut reprendre. Et le truc, évidemment, est devenu viral.
Ouais. Mais Drake, il est très, très fort pour ça. Pour rendre les trucs viraux mémables,
ouais.
Tu vois que bah, tu vas sur n'importe quel réseau social, t'as une réaction gif de Drake qui n'aime pas un truc, ouais, et qui accepte un truc, ouais. Tu vois, enfin, il est très très fort pour ça et c'est vrai que TikTok c'est le réseau.
Là, tu mets le point sur, enfin le doigt sur un truc important, c'est effectivement le côté reproductible, même très culture internet en fait, et qui bénéficie d'une certaine manière à la musique parce que un morceau comme on le reproduit à l'infini, puisque le contenu vidéo change, mais le morceau est le même.
Ouais.
Et bien là, c'est le meilleur moyen en fait de faire exploser un morceau de musique.
Ouais, quand il y a un morceau qui devient viral sur TikTok, il est dans la For You page, là, dans la page pour toi.
Ouais.
Et tu te le prends genre 40 fois en une journée, quoi, facile. Et du coup, au bout d'un moment, tu craques, ça te rentre dans la tête et c'est un peu du matraquage, quoi. Mais vraiment, quand ça devient viral sur TikTok, c'est pas à moitié, quoi.
Mais est-ce que du coup, la viralité d'un morceau sur TikTok s'observe après sur Spotify?
Et là, j'ai des statistiques là-dessus. Toi, tu as des exemples ou pas?
Oui, enfin il y en avait plein,
ouais,
en fait.
Bah, plein.
En fait, je me souviens quand j'étais en maison de disque encore, je regardais souvent, ça faisait partie de mon boulot de regarder les top streaming.
Ouais.
Et tu voyais, je sais pas, il y avait des mecs dont t'avais jamais entendu parler avant. Arizona Zervas, je sais pas si tu dis, la chanson Roxanne.
Ok, c'est une reprise de Police ou pas
de Police? Non, aucun rapport, Police.
Okay.
Mais ça avait pété sur TikTok.
Okay.
Et alors, le mec était à peu près inconnu, je crois, sauf erreur. Mais pareil, ça fait partie des titres qui ont pété grâce à TikTok. Il y a eu le fameux Weshden en France.
Ouais.
Il y avait plein d'exemples comme ça. Et direct, tu vois l'impact sur les streams, ça, c'est sûr.
C'est, il y a le SNEP, qui est le syndicat national de l'édition phonographique en France, a sorti ses dernières statistiques sur l'année 2022. Donc, il présente un peu l'état du marché, entre guillemets, de la musique en France. Et c'est intéressant parce que quand tu regardes la prescription de découverte musicale, donc ils classent en fonction des types de médias, c'est-à-dire qu'en France, si tu prends toutes catégories d'âge confondues, le premier prescripteur de découverte musicale, c'est aujourd'hui le streaming audio et vidéo.
Okay.
Donc c'est-à-dire que les gens découvrent avant tout de la musique à travers les plateformes audio et vidéo.
C'est plus la radio.
Alors la radio était historiquement le premier, ouais. Et ça fait 1 ou 2 ans que la radio,
d'accord,
n'est plus, ils sont deuxièmes. Okay. Effectivement, moi je disais toujours avant aux gens attends, ne sous-estime pas la radio.
Exactement,
ça reste extrêmement important, mais en réalité ça vient d'être dépassé par le streaming audio et vidéo. Et on est sur 47% sur le streaming audio et vidéo, et la radio c'est 40%.
Okay.
Et on a, et donc je vous passe le reste, il y a le bouche à oreille, la télévision, etc. TikTok arrive à 13%, donc en cinquième position.
Ah, donc TikTok n'est pas considéré comme streaming audio et vidéo?
Non, je pense que dans le streaming vidéo, ils mettent en fait les morceaux de musique sur YouTube. Pas les clips, etc. C'est vraiment, je pense, les morceaux de musique directement, j'imagine. Parce qu'en fait, quand tu parles de streaming audio, t'es obligé d'intégrer YouTube parce que la première plateforme à réalité streaming audio, c'est YouTube.
Ouais.
donc ça, c'était sur toutes les catégories d'âge. Mais dès que tu regardes sur les 16-24 ans, et TikTok est une plateforme particulièrement jeune, le streaming audio et vidéo, c'est de la prescription pour 70% des personnes. C'est comme ça qu'ils découvrent de la musique.
Ah ouais.
Et le deuxième, c'est TikTok. Le deuxième, c'est TikTok avec 32%. C'est beaucoup moins important que le stream audio. Mais c'est quand même le deuxième prescripteur chez les 16-24 ans. Et là, la radio est à 19%.
Wow. Okay.
Et on voit vraiment l'écart. Et c'est un média vieillissant, tout simplement, la radio.
Je comprends qu'ils balisent dans les radios, justement, pour essayer de rajeunir l'audience, quoi.
Et ce qui est dingo, c'est que tu vois, 70%, par exemple, streaming audio vidéo, etc. Mais en fait, c'est plein de plateformes, mis bout à bout.
Ouais.
Là, une seule plateforme, ouais. TikTok, 32%. Donc ça exprime vraiment le fait, enfin ça illustre parfaitement le fait que c'est un vrai prescripteur musical aujourd'hui TikTok. Des gens découvrent de la musique à travers TikTok. J'ai même d'autres stats, désolé je parle beaucoup là, on estime que dans le monde, 67% des utilisateurs TikTok chercheraient des chansons sur les plateformes de streaming après les avoir entendues sur TikTok.
Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, donc ça remplace ce que tu pouvais avoir avant quand tu regardais une pub à la télé avec un morceau qui passait et tu dis « Ah, oh, qu'est-ce que c'est ?» En fait, c'est TikTok qui fait ça et je trouve ça complètement logique. Hein. Pour le meilleur et pour le pire. On en parlait en off. Moi, j'ai vu ce truc-là arriver quand il y a eu la vidéo donc du mec qui fait du skate en buvant du jus de cranberry sur du Fleetwood Mac, tu vois. Et,
on va en reparler.
Je trouvais ça cool parce que justement, c'est Fleetwood Mac. Ouais. Donc tu te dis, hey, c'est chouette si ça permet justement d'aller diguer dans le catalogue existant, tu vois, et de pas toujours être vraiment sur la brèche des trends avec des nouveaux sons qui sortent, machin. C'est ultra cool en vrai de se dire qu'il y a des petites 13 piges qui se sont mis à écouter Dreams comme ça parce qu'ils ont vu une vidéo TikTok, tu vois. Ça c'est je trouve la puissance du réseau. Putain, je suis bienveillant sur ce réseau.
et c'est tellement puissant qu'il y a un autre chiffre qui vient du Snap, donc sur l'année 2022 en France, et que je trouve extrêmement intéressant, c'est que 45%, donc près de la moitié des 16-24 ans, déclarent passer désormais plus de temps sur TikTok que sur les services de musique en ligne. Ce qui veut dire qu'en fait, oui, ça peut permettre de transvaser une partie des gens qui sont sur TikTok vers les plateformes de streaming, mais que ça devient presque une forme de concurrent.
C'est ça.
Plateforme de streaming. Ouais. C'est un truc que t'as déjà observé, ça aussi, ou?
C'est une des questions. Est-ce que TikTok, c'est juste un outil de promo pour la musique, ou est-ce que c'est carrément une nouvelle plateforme de streaming, en fait? Est-ce que c'est un concurrent direct de Spotify?
Mais ça, c'est flippant. Parce que si tu dis que la durée moyenne d'une vidéo, c'est 15 secondes.
Ouais.
C'est-à-dire que les gens écoutent des chansons de 15 secondes.
Non, maintenant, c'est plus, alors oui, effectivement, c'est connu pour, TikTok, c'est connu pour mettre en, c'est surtout une partie d'une chanson en général
qui est virale. Le refrain.
Ça peut être un petit gimmick sympa dans une chanson, qui fait que ça devient viral sur la plateforme. Mais je crois que l'exemple le plus parlant, c'était Kate Bush, le fameux grâce à Stranger Things, grâce à Netflix. Un truc qui est devenu ultra viral sur TikTok. Et je crois que les chiffres, c'est genre, il y a eu 5 milliards, si tu comptes toutes les vidéos qui ont été faites avec cette chanson sur TikTok, ça fait 5 milliards de vues. Moi, je pense plus en vrai. Mais, ça fait 5 milliards de vues. Et à côté de ça, sur Spotify, c'était genre, alors je sais pas où c'est les chiffres maintenant, mais c'était à genre 500 millions de streams sur Spotify, alors que c'était à 5 milliards de vues sur TikTok.
Ouais, c'est dingue.
Donc tu te demandes, ok,
le différentiel,
TikTok, est-ce que ça a pas plutôt bouffé les streams de Spotify? Ouais.
Intéressant. Alors moi je me mets à la place de Kate Bush qui un matin se réveille en mode je vais me faire monter et tout machin, et elle a dû se prendre une avalanche de notifs en se disant qu'est-ce qui se passe, tu vois, parce que les artistes touchent des royalties sur la diffusion, etc. Donc
D'ailleurs c'est un truc dont on pourrait parler là. Oui, tu veux...
Non mais justement, alors en faisant mes devoirs hier, j'ai lu un truc comme quoi, alors ça datait de l'année dernière cet article je crois, donc je sais pas si ça a changé depuis, mais je pense pas. En gros, Spotify, tout ça, Deezer, tous les plateformes de streaming, le label touche une partie des revenus publicitaires. Spotify touche des revenus publicitaires et reverse une partie au label et tout ça. Et TikTok, ça marche pas du tout comme ça. C'est en fonction juste un, ils donnent un chèque en gros à la maison de disques et pour une période donnée, genre.
Pour exploiter le catalogue, tu veux dire?
C'est ça.
Ouais.
Genre ils donnent juste un chèque et ensuite ils ont le droit d'exploiter le catalogue pendant j'en sais rien, 6 mois, 1 an, j'en sais rien. Okay. Mais du coup, en gros, si j'ai bien compris, Kate Bush ne touchait pas en fonction. Elle a fait 5 milliards de vues.
Elle a pas touché.
Pas de royalties directement liées aux écoutes.
C'est ça.
Dommage pour elle.
Vous savez quoi? Parce que là, on a commencé à rentrer dans le sujet. Ouais. Je vous propose qu'on continue avec la deuxième partie où justement, on va parler de TikTok et l'industrie musicale. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors au début d'ailleurs, il y avait eu des difficultés parce que tu peux pas évidemment mettre des morceaux de musique sur une application sans en avoir dealé les droits en théorie. Donc je sais qu'il y a eu des batailles, etc. Aujourd'hui, ils travaillent avec la plupart des majors. Il y a des accords qui permettent d'exploiter les morceaux, d'en tirer profit. Est-ce qu'on peut citer des artistes qui clairement ont émergé grâce à TikTok. On a commencé à en citer quelques-uns, mais peut-être qu'on peut reprendre ça, s'écouter quelques extraits aussi de morceaux qui ont été des tubes sur TikTok. Qu'est-ce qui te vient, toi, genre les plus représentatifs, qu'est-ce qui te vient en tête?
Bah, pour moi, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, Roxane.
Oui.
Pour moi, c'était un des premiers.
C'est quoi, on va l'écouter alors?
Ah non, j'en ai un autre aussi d'un français, enfin, un qui s'appelle Friendships.
Ok.
Et c'est un français, j'ai plus son nom en tête. Mais pareil, qui sortait, c'était un des premiers tubes viraux sur la plateforme aussi.
Friendships, alors je vois Tilacine.
Non.
Non,
Pascal le Toublon.
Exactement.
C'est vrai? C'est vrai, ok.
Vous allez la reconnaître. Enfin, peut-être pas.
Écoute, on s'écoute un extrait. Friendships, Pascal le Toublon.
Et c'est un méga tube. Vous allez reconnaître. Je vous promets.
J'avance juste un petit peu.
Ouais, ouais. Voilà. Ok, si ça vous dit rien là, c'est foutu.
Ça me dit rien, mais je comprends pourquoi ça peut, ça peut dire quelque chose. Ouais.
C'est instrumental. Hein.
Ouais. Okay. Et donc ça, c'est genre les mecs qui démarrent leur Mercedes ou leur Ferrari, ils mettent ça.
Oui, non, mais c'était surtout des premiers challenges de danse. Il y avait beaucoup de gens qui dansaient là-dessus. Au début de TikTok, pareil, 2019-2020, c'était une des premières chansons très virales. Ouais.
Et donc lui, Pascal Le Toublon, que je ne connais plus.
Improbable, je sais pas comment ça s'est passé pour lui, mais
je pense qu'il a même pas eu le temps de choisir un pseudo. Tu sais, il a dit Pascal Le Toublon.
Je connais pas son histoire personnelle, mais.
Mais ça veut dire que. Il fallait quand même au préalable, parce que moi la question que j'ai, c'est puisque on dit que c'est TikTok qui deal avec les majors pour avoir l'exploitation d'un catalogue, c'est-à-dire que le type là, il était déjà dans le catalogue, tu peux pas uploader le...
Je pense qu'il avait...
Peut-être qu'il l'avait mis lui-même aussi,
ouais,
je sais
pas.
Ouais, c'est
ça.
Ah, tu peux?
Bah ouais, ouais, complètement.
Ah d'accord, moi je pensais que...
En tant qu'indé, si t'as les droits de tes musiques, ouais, tu les fais à la maison, etc., t'uploades et...
Ok, moi je croyais que tu devais diguer dans un catalogue disponible, mais tu peux...
Non, non. Ah non, c'est le Far West en vrai, c'est pour ça que c'est un peu le...
Bah c'est chinois, ouais, c'est... Oui. Non, bah oui. La propriété intellectuelle.
Je pouvais très bien, j'en sais rien, prendre un morceau connu et le pitcher trois tons au-dessus et le poster, enfin... Tu fais ce que tu veux en vrai.
Mais à l'inverse même, en fait, parce qu'il y a eu plein de courants musicaux, tu sais. Enfin, j'ai toujours les petits, les jeunes, ils aiment bien faire des trucs qu'on faisait il y a 30 ans, sans regarder ce qui se faisait il y a 30 ans, et puis dire qu'ils l'ont découvert, tu vois. Ouais. Et donc, à un moment donné, ils se sont mis à pitcher en bas plein de morceaux, à les ralentir, et à faire en fait du chop and screw qu'on faisait en 95, tu vois. Et en disant, ouais, ils appellent ça, je sais plus...
Slow down reverb, non, c'est pas ça?
Slow down reverb, ou supermarket, machin.
T'as le daycore aussi, qui est l'inverse du nightcore, où là, t'accélères comme le speed up, d'ailleurs. On en parlera un peu de ces trucs.
C'est des genres musicaux qui sont mis en avant via les plateformes en fait et je trouve ça super intéressant aussi
et TikTok se démarque là-dedans, il faut bien l'avouer, en termes de créativité honnêtement. Ce que ça veut dire, juste parce que pour terminer sur cette histoire de, toi demain tu fais un TikTok, tu mets un morceau à toi, est-ce que ça veut dire que n'importe qui peut reprendre ce morceau pour en faire une vidéo tout de suite comme ça?
Et alors comment ça se passe au niveau de la, je pense que t'es pas rémunéré, enfin je vois pas pourquoi donc non, c'est, tu mets un morceau à toi comme tu veux, clairement.
Donc c'est vraiment un moyen de se faire connaître du plus grand nombre, sans forcément chercher tout de suite une compensation.
On parlera dans la dernière partie de ce podcast du côté monétisation, effectivement, parce que c'est aussi un défi, mais on en reparlera. Est-ce que t'avais ce tube dont tu parlais, Roxane, là, pardon, c'était quoi ça? Moi, je m'en rappelle pas non plus.
J'en connais qu'un. Donc,
Roxane, Arizona, Zervas.
Très bien, allez, on s'écoute un extrait aussi.
J'espère que je connais. Ouais, on est vraiment dans les trucs...
C'est Bounce.
Ouais,
putain, je suis Sting, je passe un coup de fil direct quand même.
Non, il parle pas de Red Light, là.
Ouais, c'est vrai.
Ça vous dit rien, du tout?
Non.
Ok. Gros tube TikTok.
Ok. Moi, ça me fait penser à un truc, là, ce qu'on vient d'entendre.
Ah ouais?
Bah c'est Lil Nas X. Parce qu'il y a le côté un peu hip hop, un peu western sur les bords, etc. Arizona,
Lil Nas X.
Oui, Lil Nas X.
J'ai compris Nina Sex et je disais mais qui c'est Nina Sex?
Non, pardon.
Lil Nas X.
Pardon, je le prononce mal, c'est ça. Lil Nas X. Qui, pareil, c'est un mec qui émerge à travers TikTok.
Ouais.
Bon.
Je crois que c'est TikTok. Je crois qu'il y a un peu de Twitter dans l'histoire aussi.
Okay. Oui.
Pas de conneries.
Et puis en plus il y a toute la communauté queer etc qui était aussi derrière. Et puis il y a eu le scandale du fait que il fait un morceau, donc Old Town Road, c'est de ce morceau-là qu'on va parler.
Absolument.
Évidemment, qui du coup est techniquement de la country avec une base trap.
Ouais.
et qui évidemment n'est absolument pas prise en compte dans les charts country alors que ça a oui, explosé et donc c'était histoire, aussi voilà, vous acceptez pas les Afro-Américains qui font de la country, donc il y a eu toute une polémique là-dessus.
Je sais pas dans quelle mesure c'est exagéré, mais je suis quand même souvent tombé sur le fait que c'est à travers TikTok qu'il est devenu important.
Ouais. Je crois que c'est officiel. Hein.
Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Ok.
Parce qu'il a, tout compris, ce mec-là. Il a fait sa chanson. Déjà, l'idée de faire du rap country, déjà, c'était fort. Et après, je crois qu'il a tout fait lui-même et il a créé des. En fait, il balançait des espèces de gifs de. Il balançait du contenu, en gros, des vidéos, des gifs marrants et tout, toujours avec sa musique en fond. Et jusqu'à ce que ça devienne viral, j'ai pas suivi l'affaire, j'étais pas là, enfin j'ai pas suivi l'affaire de près quoi, mais
en tout cas c'était en 2017 il me semble.
Ouais, il est devenu viral à force de balancer du contenu non-stop avec sa chanson
qu'il a fait du coup avec, alors je sais pas si dès le départ il y avait
2019,
le père de Miley Cyrus.
C'est après comme tu disais, ouais. Vu que c'était pas comptabilisé country, ensuite il a fait un remix avec Billy et Ray Cyrus et là ça a été comptabilisé country.
Bon, tout le monde connaît ce morceau, juste pour rappeler. Ça ressemble à ça, vous allez voir.
Il est très bien d'ailleurs.
C'est un gros sample.
Moi j'aime bien.
Moi aussi.
C'est frais.
Bon, tout le monde voit ça. Tu disais c'était un sample
de Nine Inch Nails.
C'est vrai, c'est un sample. Je savais pas du tout. Ouais. Très bien. Est-ce que t'as d'autres exemples comme ça d'artistes en France, par exemple?
Ah, en France, bah Pascal Le Toublon, mais évidemment.
Pascal, big up à Pascal.
Et évidemment, Weshden. Weshden, c'est un des premiers quand même.
Weshden, c'était le quoi, les caleçons sales là?
C'est Anissa,
hors de ma vue. Ouais.
C'est le morceau Anissa. Et Anissa. Ouais. Weshden, clairement, c'est à travers TikTok qu'elle pète et qu'elle devient une artiste aujourd'hui qui sort un nouvel album, etc.
Ouais.
Bon. Baz, pour le plaisir.
Allez, moi je suis blindé, moi.
T'es prêt?
Je crois que j'ai jamais écouté ce morceau.
C'est vrai?
Ouais.
En entier.
Alors comme ça tu m'as trompé. T'as cru que t'allais pas capter. T'as changé de parfum, numéro comme si par les keufs t'étais.
On est bien là, non?
Ah, on est bien. Maman,
tu parles avec une Anissa, mais moi je m'appelle Weshden. T'es qui ou pas? T'es bien, on est bien ou pas là? Bon voilà, tout le monde connaît.
Classique.
Ouais, c'est super.
Moi je pense que Daz, tu devrais commencer à faire des TikTok avec des morceaux de Weshden.
Tu
rides sur ton vélo avec sur du Weshden.
Non mais pour de vrai, tu rigoles, mais moi ma fille elle va avoir 11 ans là, ouais. Donc à un moment donné ça va être ça à la maison. Hein.
Bah écoute.
Donc je me prépare psychologiquement.
Il y a des chances.
Elle a, elle a pas le droit d'aller sur TikTok pour l'instant?
Non. Non, justement, parce que je suis un
bon père.
Un gars qui est sur les réseaux et que je vois comment ça fonctionne. Okay. Non, elle attendra d'avoir 13 ans, voire 18.
25 ans.
Ouais. Enfin, je te dis ça, elle va rentrer au collège l'année prochaine, donc à mon avis, ça va être un peu chaud.
Ça va être difficile, ouais.
Mais non, je vais rester en oversight comme ça au-dessus pour être sûr que, ouais, parce qu'il y a trop de dérives, donc. Encore que TikTok, je sais pas, tu vois, si, à part matrixer les cerveaux des enfants.
Est-ce qu'il y a du contenu chelou qui serait adapté pour les enfants?
Voilà, est-ce qu'il y a des trucs un peu...
Moi, c'est plus le fait de griller son cerveau à force de scroller. C'est plus ça, tu vois.
Ok. Ça c'est chiant en soi, mais si en plus, t'as du contenu un peu chelou, étrange...
Il doit y en avoir, mais...
Ouais. Je sais pas, en fait, comment ça marche au niveau de la modération. Est-ce qu'il y a des grosses équipes qui virent le... Parce que, tu vois, enfin... Qu'est-ce qui empêcherait genre un groupe terroriste style Daesh d'utiliser TikTok pour faire des vidéos de recommandations, enfin de recommandations,
de propagande.
qu'est-ce qui les empêcherait de faire ça, tu vois?
J'imagine qu'il y a forcément une part de...
Ouais, il y a de la modération, c'est sûr. Très strict, il y a eu des histoires un peu limites, je crois, avec TikTok pendant un moment, j'ai plus les exemples en tête.
Un type de contenu qui n'était pas adapté et qui...
Mais déjà des trucs avec des mineurs, c'est très limité maintenant pour les mineurs. TikTok.
On parle pas de la profession, on parle vraiment des
gens. Pas avec les pioches et tout. Non, les mineurs.
Ouais, ok.
Et je sais qu'au début, enfin, il y a eu une période, il y a eu quelques problèmes avec ça, et ils ont été très très stricts là-dessus maintenant. Je crois que t'as pas le droit de faire de live TikTok déjà si t'es mineur. Ça, c'est, c'est interdit.
Alors que, est-ce que au niveau de l'âge minimal pour créer un compte sur les autres réseaux, il me semble que c'est 13 ans. Est-ce que c'est la même chose sur TikTok ou...
Question.
Tu vois, faire la diff entre consommateur pur, où là, en fait, tu peux arriver à 13 ans, et puis te mettre face à la caméra, et là, effectivement, tu dois être majeur. Je crois même pas que ça soit le cas. Enfin, sur Insta, tu dois avoir des gens qui n'ont pas 18 ans, hein, qui font des lives. Hein,
ça, c'est possible, je sais pas. Est-ce qu'il y a... Parce que, par exemple, c'est le cas sur YouTube. Tu peux créer un compte moins de 18 ans où tu n'as pas accès à l'ensemble du contenu YouTube. Je ne sais pas si c'est, s'ils ont fait aussi ça sur TikTok, pour essayer de restreindre un peu, tu vois. Dire, parce que sur YouTube, il y a aussi plein de conneries. Hein.
Oh bah, oui,
et plein de choses absolument pas adaptées aux enfants.
YouTube Kids qui existent.
Et voilà, c'est ça dont je parle, effectivement. Ouais, okay. Et quand tu es créateur de contenu, par exemple, toi, tu indiques si ton... Si ton contenu est adapté au moins de 18 ans.
C'est même le premier truc que tu indiques.
Ah oui, absolument.
Et sur YouTube.
Oui, sur YouTube. Et tu peux pas uploader, d'ailleurs, tu peux pas valider ta vidéo tant que tu as pas dit oui ou non par rapport aux 18 ans.
Ouais, tout à fait. Et je crois que t'es moins monétisé si tu dis que c'est pas adapté aux enfants.
Ah, ça, je sais pas. Du tout.
Non, si c'est que pour les enfants, au contraire.
Ah oui.
Il me semble.
J'en ai aucune idée.
Ça joue sur la monétisation, ouais.
Ok.
Parce que t'es moins diffusé, de toute façon. Donc,
En tout cas, pour résumer un peu la discussion qu'on avait, à travers des artistes qui émergent par TikTok, ce qui joue énormément, c'est la viralité, parce que c'est reproduit à l'infini, on le disait, historiquement à travers les challenges, les chorés, etc. Aujourd'hui, c'est plus à travers l'humour, etc. J'imagine. Enfin, quel type de contenu, d'ailleurs, aujourd'hui, permettent de rendre viral, viraux, des morceaux?
Oh bah ça c'est la grande question. Il y a pas la formule magique, hein, sinon ça serait trop facile. Mais il y a plein de trucs. Moi, un des derniers exemples évidents en date, c'est Pierre de Mer.
Ouais.
Un jour je marierai un ange.
Ouais.
C'est une simple cover d'un mec qui s'appelle Nardo Sings sur TikTok. Donc Pierre de Mer fait la chanson Un jour je marierai un ange, qui marche bien, je crois, il me semble. Mm-hmm. Et après il y a ce mec-là, donc Nardo Sings, TikToker, qui fait une cover dans sa chambre, très jolie et tout. Et c'est cette cover qui devient virale. Et j'ai envie de dire, tu sais pas trop pourquoi, mais elle est très bien la cover, tu vois, mais ça devient ultra viral. Et du coup, le titre monte en stream et devient... et là, il a gagné une victoire de la musique et tout ça, enfin c'est...
Pour Pierre de Mer, oui.
Pierre de Mer,
ouais.
On peut l'écouter parce qu'il me semble que je l'ai entendu.
Oui.
C'est un truc éclaté un peu, non?
Je me permettrai pas.
Ouais.
Mais
écoute, moi aussi. Parce que du coup, ouais, j'étais tombé dessus et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette Zumba, là?
Ah non, c'est pas Zumba. Non. C'est variété, enfin tu vois.
Ouais, c'est ça. Ouais. Non, je disais Zumba dans son arnaque.
D'accord.
En priant pour que rien ne change, tu sais, une histoire
ancrée dans les âges.
Bon, en tout cas, c'est un mec qui commence à bien marcher aujourd'hui.
Ouais. Ah bah ça, c'est un bon tube, ouais. Clairement, ouais. Ça, c'est sûr.
On pense un petit peu. Plus rien ne bouge, sauf nos lèvres, je me lève. Et ce qui est intéressant, c'est que tu dis que ce morceau a pété sur TikTok à travers une reprise, quoi, notamment en particulier, ouais.
Exactement,
Nardo,
ouais.
Ok.
Quelqu'un d'autre, en fait. Donc, c'est pas Pierre de Mer qui a fait péter ce titre.
C'est pas lui qui l'a mis lui-même sur la plateforme, c'est...
Bah, oui. Enfin, le son était dispo sur la plateforme, ça, c'est sûr.
C'est dans le catalogue.
Mais c'est Nardo, donc, qui a fait cette cover qui a fait péter le titre, clairement, on peut le dire. Et ça qui est beau aussi dans cette plateforme, c'est que n'importe qui tu peux être un artiste reconnu. Il suffit qu'il y ait un petit gamin, je sais pas, en Bretagne ou dans la Creuse, peu importe, qui ait une super idée de vidéo, qui utilise ton son, il peut te faire exploser.
Tu crois que c'est vraiment uniquement sur l'originalité, ou est-ce qu'il y a vraiment des faiseurs de tubes sur TikTok, donc des gros comptes en fait? Est-ce que en tant qu'artiste, si tu réussis toi à être featuré sur une vidéo créée par un gars qui a 1 million d'abonnés, 2 millions d'abonnés,
ça
tu vois, plus que le petit dans la Creuse ou dans le Finistère qui...
Ouais, mais comme tout vient du pour toi...
Ouais, mais est-ce que quand t'as justement... Enfin, moi, la question que j'ai, c'est est-ce que quand tu as 35 millions d'abonnés, t'as pas plus de facilité à rentrer dans le pour-toi des gens, tu vois.
Alors, il y avait
Si, si,
ouais. Ouais. Mais j'avais vu des statistiques où la corrélation entre le nombre de vues et le nombre d'abonnés.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ouais.
Je suis pas sûr que ça t'assure des... Non, j'ai l'impression que c'est l'algorithme avant tout qui va... Comment ça fonctionne d'ailleurs, tu sais, parce que je crois qu'il y a un principe un peu d'étape. Il y a quand même un truc qu'on sait.
Ah, pour l'algorithme, tu veux dire?
Ouais, c'est ça.
Oui, bah, c'est le fameux truc. De toute façon, c'est comme toutes les applis maintenant. La métrique la plus importante, c'est le temps de visionnage, la durée de visionnage. Ils veulent que le TikTok, YouTube, tout le monde veut que tu restes le plus longtemps possible sur leur appli. Parce que du coup, ils ont plus d'impact sur les annonceurs et tout ça. Ils peuvent vendre plus de pubs, etc. Donc, la métrique très importante pour elle, c'est combien de temps tu restes sur l'appli. Et en gros, tu postes une vidéo, TikTok va la montrer à un échantillon de personnes. Alors, comment ils choisissent cet échantillon de personnes, j'en sais rien.
Mais en tout cas, c'est restreint, peu de personnes.
C'est restreint, peu de personnes. Ils regardent si la vidéo, ils la regardent jusqu'au bout. Est-ce qu'ils la regardent une seconde fois? Est-ce qu'ils like? Est-ce qu'ils commentent, etc.? Est-ce que c'est vraiment une vidéo de qualité qui engage les gens? Et ensuite, si les signes sont plutôt positifs, ils vont montrer encore un peu plus de gens, etc. Et après, c'est là où ça peut faire effet boule de neige.
Donc, tu franchis des étapes à chaque fois avec un public plus important. Et si l'engagement reste bon, ta vidéo marche trop bien.
C'est pour ça que j'observe souvent. Alors, pour avoir eu quelques vidéos qui ont fait beaucoup de vues, c'est très géolocalisé au début.
Ouais.
Donc, ça touche quelques personnes. Ta vidéo cartonne, ça va toucher, on va dire, presque toute la France, et passer un certain seuil, tu commences à avoir des commentaires américains, ou étrangers, ou africains, peu importe. Et donc c'est vraiment, il y a vraiment ce seuil, ces paliers à franchir, je trouve.
Donc c'est à dire que en fait tu ne peux pas cibler l'intégralité de des utilisateurs de TikTok avec ta vidéo quand tu la postes. Il y a vraiment ce côté concentrique.
Ouais, enfin c'est vraiment un échantillon. Mais après, toutes les plateformes marchent comme ça aujourd'hui. Hein, j'ai l'impression.
Oui, par
Reels,
rapport à
les shorts, c'est le même genre de ouais. fonctionnement. J'ai l'impression. Ouais.
D'accord. Donc tu peux pas dire tiens, je suis famous in Japan. En fait, si t'es famous in Japan, c'est que t'es déjà famous en France.
Ah ça, tu vois. Peut-être que l'échantillon de base, parfois, c'est proposé à des étrangers. J'en sais rien. En fonction peut-être du contenu, ils analysent peut-être la langue. Enfin, il peut y avoir des trucs. J'en sais rien.
Peut-être. Mais tu vois, typiquement, alors ça a peut-être changé en vrai, mais. Je sais que je faisais jamais de trucs en anglais parce que je savais que ma vidéo allait être montrée que des Français de toute façon.
Ah, ok.
Ouais.
Ok.
Après, ça a peut-être changé depuis, je sais pas.
Ouais.
Et pour moi, c'était vraiment géolocalisé TikTok à la base, en tout cas.
Ça montre donc le fait que n'importe qui peut avoir une vidéo qui marche très bien, même un inconnu. Effectivement, on l'exprime avec Nardo, par exemple, pour illustrer. Il y a aussi quand même le fait que, à travers le pour toi, comme tu suis un peu moins des gens abonnés, etc., on recherche de la nouveauté. On recherche beaucoup de nouveautés. C'est un truc qui est vachement mis en avant dans TikTok. Mais paradoxalement, la nouveauté, parfois, c'est du back catalogue. Ce qu'on appelle donc dans l'industrie du back catalogue, c'est-à-dire des morceaux anciens, en fait, qu'on continue à exploiter. Et alors, il y a évidemment l'exemple dont tu as parlé tout à l'heure, Das. Tu peux peut-être nous rappeler en quoi ça consistait, cet exemple, autour de Dreams,
sur Fleetwood Mac. Ouais. C'était un mec, dans un état, tu sais, de la Rust Belt américaine, genre le Wyoming ou le Dakota ou l'Idaho, je sais plus. C'est un gars qui se filme, en fait, c'est une vidéo face cam, il se filme en train de boire de l'Ocean Spray, donc du cranberry.
Une espèce d'oasis, quoi.
Ouais, sur un skate. Enfin, tu comprends qu'il est sur un skate, parce que je sais même pas si on voit le skate à l'image, tu vois, juste
si,
il glide.
On le voit un peu quand même, il me semble, le skate, bah bref.
Et en fait, il a sonorisé ça avec le morceau de Fleetwood Mac, et c'est vrai qu'il y avait une vibe de ouf qui se dégageait de ce truc, et ça a été repris après à l'infini. Et c'est... Enfin, moi, j'ai découvert le morceau comme ça aussi, tu vois, parce que Fleetwood Mac, j'écoute pas spécialement.
On s'écoute un extrait, tu nous en parles après, Bovary.
En plus, le mec, il a une tête, mais vraiment... Ouais.
Il a une bonne tête.
Une bonne tête d'Américain, tu vois. Et il a l'air de kiffer, en plus, tu vois.
Ouais.
Et ils ont pris le refrain, en fait. Dans
l'original, c'est le début. Enfin, dans la vidéo TikTok, c'est le tout début.
Non,
c'est
ça démarre pas avec la...
Si, si.
Non.
Non.
Okay.
Non, c'est vraiment...
Ouais. C'est pas
non.
ça.
Non, c'est pas ça. C'est le tout début du morceau. Est-ce que, par exemple, ça a eu une influence, après, sur les streams, etc., à ta connaissance? Le fait
Évidemment.
Ok, raconte-nous un peu.
Évidemment, je crois que c'était la première fois, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est la première fois que le Fleetwood Mac revenait dans les charts à ce point-là, quoi. C'était...
Bah, regarde le nombre de streams sur rien que sur Spotify.
C'est hallucinant, on est à 1 milliard. On est à 1 milliard 100 millions.
Tu vois, sans TikTok, ça serait jamais arrivé, évidemment. Mais tu voyais Fleetwood Mac dans les top streaming, quoi. Ce qui était complètement dingue. Alors que l'album est 77, je crois, l'album, un truc comme ça.
Ouais, exactement.
Ouais, c'est un vieux truc. Mais ce qui est marrant, c'est ça, c'est, après, du coup, ça arrive dans les oreilles des plus jeunes, qui disent « Hey, vous connaissiez et tu dis « Bah ouais, quand même.
Enfin, » Bah oui, parce que
c'est de vos devoirs, les gars.
Ce qui est fou, c'est que ce morceau, et d'ailleurs tout l'album en réalité, cet album de Fleetwood Mac...
C'est un des albums les plus vendus de tous les temps.
Voilà, exactement, c'est un grand tube déjà.
Mais oui.
C'est un grand tube.
Bien sûr.
Mais par contre, il n'est pas accessible, ou en tout cas, il est moins connu par une plus jeune génération.
Ah, complètement.
Et ce qui fait que les plus gros consommateurs de streaming, bah, c'est pas les trucs qui streament le plus.
Ouais.
Parce que c'est surtout des jeunes, etc. Et là, à travers TikTok, eh bien là, ça redevient... Il y a même les ventes physiques ont augmenté aussi, quand même, tu vois.
Okay.
Ils ont revendu des
parce que ça a permis à des gens comme moi, par exemple, de... Tu vois, parce que moi, j'ai pas TikTok. Donc, t'imagines, j'ai découvert aussi ce morceau.
Alors
que
touché par le truc.
J'ai même pas foutu un pied sur le réseau, parce que moi, je suis sur Twitter, et que sur Twitter, en fait, il y a des gens qui filtrent pour toi, tu vois, je me suis abonné à des comptes qui mettent le meilleur de TikTok, comme ça j'ai pas besoin d'y aller moi-même et c'est tant mieux, tu vois. Et en fait moi je l'ai pris comme ça, tu vois, donc je me dis waouh, quand même, enfin c'est pour montrer la force du truc qui réussit à toucher les gens, même les gens qui sont pas abonnés et qui ont pas installé l'application sur leur smartphone, c'est quand même ouf, tu vois.
Et dans cette histoire on parle souvent, ça fait une pub énorme pour Fleetwood Mac, mais pour la boisson aussi.
Ouais, c'est
vrai,
c'est vrai.
Bah, c'est vrai.
Et très bien,
c'est une pub incroyable.
Si vous avez des cystites, c'est parfait.
Il y a pas eu en plus un truc où ils ont voulu le contacter, où lui a été contacté par des marques derrière,
un influenceur, clairement. Mais c'est une pub genre gratos de malade pour la marque de boisson, quoi.
Oui, parce qu'on la voit bien,
on la voit bien.
Et que tu sens que c'était, en fait, c'est ça qui marche bien, c'est quand c'est vraiment organique et spontané. C'est-à-dire que effectivement la bouteille, on la voit complètement à l'image, mais tu sens que c'est pas comme dans les séries télé où ils font en sorte d'avoir toujours la marque visible à la caméra. Tu vois, là le gars, il prend sa bouteille, il la porte à sa bouche. tu vois l'étiquette et boum. Après, est-ce que il faudrait voir si en plus des streams de Fleetwood Mac, il y a eu une survente d'Ocean Spray vraiment genre.
Il semble vraiment.
Les boutiques qui ont fait. Alors c'est pas bon, tu vois.
Je me souviens avoir vu des. Après c'est plus aux États-Unis forcément. Et des rayons de vide, tu vois, d'Ocean Spray. Vraiment.
Incroyable. Est-ce qu'ils ont vendu plus de skateboards aussi durant cette période?
Peut-être. Ça peut marcher.
Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça de ce fameux bac catalogue, des morceaux anciens qui reviennent complètement à la mode
Oui, bah le Kate Bush dont on parlait.
Kate Bush, évidemment.
Il y a la puissance de Netflix derrière, ça c'est sûr. Et le dernier, j'ai envie de dire que c'est Lady Gaga aussi, pas avec Netflix aussi.
Alors là, on est moins sur du truc très ancien, mais c'est quand même un tube.
C'est un album de... Ah, il doit avoir plus de 10 ans, facile.
C'est quoi le morceau
C'est Bloody Mary, le morceau.
Ok. Je mets un petit extrait en même temps. Album de 2011 en effet. Voilà. Ah non, ça a l'air d'être sur Born This Way, mais c'est peut-être un international, je sais pas.
Ah, c'est Born This Way peut-être.
C'est sur Born This Way, ouais.
Ok. Ouais, ouais.
Donc 2011, et, et récemment, il est revenu à la mode en gros.
Ah ouais. Bah okay. Ouais, pareil, top streaming et tout ça, bien sûr. Mais je pense que si tu vas sur le profil de Lady Gaga, ça doit être le plus streamé, non?
Je vais te dire ça. On s'écoute un petit peu.
Ouais. Lady Gaga, elle a quand même. Oh non, il est qu'à 270 millions de
Ouais, alors il est à ce... c'est ridicule d'ailleurs. 269 millions de streams. Non, mais par contre, il est dans le top 1 des populaires, c'est-à-dire que c'est celui le plus écouté en ce moment. C'est pas celui qui a cumulé le plus, effectivement, mais c'est celui en vogue. Alors que c'est un morceau qui a 12 ans.
Ouais, exactement. Oui, c'est le premier. Ouais. Et ça depuis bien 2-3 mois, j'ai envie de dire.
Ok.
C'est le plus streamé de Lady Gaga, tu vois.
Donc tu veux dire que non seulement ça peut faire revenir des gens qui sont plus actifs, mais que en plus si t'es passé est-ce qu'il même peut y avoir tu vois quelqu'un un peu connu mais pas parce que Lady Gaga quasiment tous ses morceaux c'est des tubes mais est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un qui sort un morceau qui passe un peu inaperçu et genre 5 ans après grâce à TikTok ça revient.
Je suis sûr qu'il y en a, j'ai pas l'exemple là tout de suite mais je suis sûr qu'il y en a. T'en as toi en tête ou pas?
J'en ai un français. Okay. Mais je sais qu'il y en a 3000 d'autres.
Ouais pareil. J'ai un blanc là.
Kid Francescoli ça te parle?
Bien sûr. Bah, j'étais dans la maison de disques quand
c'est
ça
vrai.
Ouais, je bossais.
Kid Francescoli.
Moon.
Avec le morceau Moon. Et je crois que c'était un morceau qui était passé. Parce que c'est pas non plus une resta, Kid Francescoli. Non. C'est un artiste reconnu en France, mais c'est pas une méga star. Et le mec est devenu du jour au lendemain.
Il a un milliard de streams, là.
Bah, ouais.
Sur ce morceau.
Non, il a 100
non,
millions.
Non, il a 103 millions, pardon.
Ouais.
J'ai décalé.
Chose à dire éventuellement.
Ouais, du coup, c'est. Ouais.
Vas-y.
Le titre à la base s'appelle Moon.
Ouais.
Que Moon.
Ouais.
Et parce que l'extrait sur TikTok, c'était le moment où la chanteuse dit And it went like. Et bah, entre parenthèses, sur Spotify, maintenant ça s'appelle Moon, entre parenthèses,
oh.
And it went like. Ils ont changé après.
S'adaptant par rapport à ce que les gens ont connu sur TikTok. Sûr, dingue. J'avance un petit peu.
Ça se prête bien à des démarrages de Ferrari au Qatar. Hein. Moi, c'est bon. Tous les contenus que je vois. Moi. Chaque fois, c'est des mecs qui allument leur voiture.
Très cool morceau en tout cas.
Ouais, franchement, c'est cool.
Plus de 6 minutes.
Mais du coup, c'est une aubaine pour un musicien. Mais est-ce que c'est pas un truc qui t'enferme aussi de te dire putain, je suis connu pour 15 secondes? Tu vois, enfin.
Est-ce qu'on peut en parler de ça? Est-ce que ça a une influence sur, par exemple, la façon dont on fait de la musique aujourd'hui? Le fait de prendre en compte TikTok?
Alors, je pense que c'est sûr. Peut-être moins, mais c'est sûr qu'il y a déjà maintenant des discussions où on se dit ah ok ce titre il est parfait pour TikTok, où tu trouves un espèce de petit gimmick je sais pas vroom vroom ou je sais pas quoi des trucs comme ça tu vois, et tu te dis ok on va mettre ça dans la chanson parce que c'est facile à reprendre en TikTok et tout. C'est sûr qu'il y a des trucs comme ça, des petites stratégies comme ça, c'est sûr. Après est-ce que la chanson est vraiment
pensée pour TikTok?
Oui, je pense qu'il y en a qui sont pensés pour TikTok.
Quand on parlait de Tootsie Slide de Drake tout à l'heure, c'était le cas.
Ça, c'est sûr. Ouais.
Est-ce qu'on peut l'écouter du coup Tootsie
Slide? Bien sûr. Franchement, le morceau. Alors, j'adore Drake, hein, mais le morceau, il a aucun intérêt.
D'accord, il est pas ouf. Mais c'est un méga tube. Ouais. Black leather glove, no
sequence. Buckles on the jacket, it's a leak shit. On 808 Charlotte, quoi. Crossbody got a piece in it. Got a dance, but it's really on some
street shit. I'ma show you how to get it, it go right for. Bon, c'est 2020.
Ouais.
En fait, le morceau est pas mauvais, mais ni bon. C'est juste, il est là pour faire une choré dessus.
La petite choré, ouais.
Et il le dit dans. C'est le refrain, en fait. Même.
C'est d'un cynisme quand même.
Bah, le mec, il est, ouais,
c'est calibré pour
je sais pas si c'est cynique ou réaliste, en fait. Juste, le mec se dit, c'est ça qui marche.
C'est très bon marketing. Ouais. C'est un très bon marketing, tout simplement.
J'ai vu un mec, pareil, qui avait eu un gros tube sur TikTok. Le morceau s'appelle Bad Habit. Tu te rappelles de l'art? Merde.
Bah, y a, alors, Bad Habit. Ah oui, bien sûr.
J'ai trouvé, Steve.
Steve Lacy.
Steve Lacy,
absolument. Steve Lacy est respecté, par contre.
Oui,
pas Internet.
Mais il se trouve en fait qu'il a un morceau donc qui est devenu un tube TikTok, Bad Habit, et que j'ai vu des extraits de concerts où en fait les gens
lui demandent.
Non, c'est pas seulement lui. De toute façon, il le joue. Ouais. C'est qu'en fait les gens l'accompagnent sur 30 secondes. Ouais, ils sont capables de chanter avec lui 30 secondes.
Et après,
et lui justement, et apparemment, il montre un peu qu'il est déconcerté. Tu vois, pendant le concert, bah, les gars, tu vois.
Ouais, bah ouais, mais c'est
incroyable.
Fou. Ouais, c'est fou. Justement, c'est pour ça que je me dis, c'est à la fois une aubaine et une malédiction, du coup. Parce que dès que tu sors de ce pourquoi les gens t'ont connu et quand t'es exposé comme ça, c'est-à-dire que vraiment, t'as 100% de l'auditoire qui connaît tes 30 secondes de chansons, mais après, tu tombes à 10% qui connaissent le reste du concert, tu vois. Et tu te dis, hey, est-ce que c'est ça que je veux, tu vois? Est-ce que, en tant qu'artiste, est-ce que c'est ce truc-là que je veux?
Comment tu te positionnes? Parce que toi, tu produis aussi en parallèle, etc.
Ouais, mais en fait, je pense que c'est dû beaucoup à, en fait, tu peux faire des millions de vues sur TikTok avec ta chanson sans que les gens te connaissent toi, en fait. Je trouve que la personnification de l'artiste, elle est un peu mise de côté parce que ça peut être juste ta chanson devient virale, déjà ça peut ne pas venir de ton propre gré, enfin voilà. Ouais. Et en plus les gens peuvent utiliser ton son et en fait les gens écoutent ton son en boucle, mais sans avoir jamais vu ta tête.
C'est un peu le lofi sur les plateformes de streaming où tout le monde connaît ton morceau mais personne sait qui t'es ou ton nom.
Tu vois, il y a des, je sais pas, il y a quoi, Talking to the Moon, ça veut dire quelque chose, le remix Drill,
non,
ce qui a été genre méga viral sur TikTok, pareil. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent, qui savent que le mec s'appelle JNR Choi, je sais pas comment on dit d'ailleurs.
D'accord.
Mais je suis pas sûr, tu vois. Il y a plein de tubes comme ça où c'est des tubes TikTok. Est-ce que l'artiste derrière, ça l'a aidé à créer une vraie communauté qui le suit,
Ça transforme aussi.
Est-ce que les gens écoutent cette chanson parce que c'est cet artiste? Je suis pas sûr. Et ça, c'est
donc ça veut dire que en fait, finalement, c'est pas si systématique que ça. C'est-à-dire que tu peux avoir une exposition incroyable sur un titre. Mm-hmm. Ça veut pas dire pour autant que le lendemain à ton concert, tu vas faire guichet fermé.
Ah ouais, ça c'est sûr. Ouais, ouais, ok. Ouais.
Parce qu'on avait tendance à dire un peu l'inverse en début d'émission.
Parce qu'on a pris des exemples marquants, les plus gros, etc. Et je suis sûr qu'effectivement, il y a plein de morceaux qui fonctionnent à un moment. C'est pas non plus tout si slide ou Bad Habit ou je ne sais quoi, etc., mais qui quand même marche très bien. Et derrière, je suis pas sûr que ça ait en tout cas pas à long terme, une incidence sur la carrière de quelqu'un, quoi.
Non. Si ça n'est pas. La réponse inutile. Non, je pense, typiquement, Pierre Demer, il a très bien joué le coup.
Ouais.
J'en discutais du coup avec TikTok France. Okay. Et en gros, c'est devenu viral, mais derrière, Pierre Demer, il aurait pu rien faire et. Ouais. Et le titre, il aurait peut-être bien marché, mais Pierre Demer a réussi à créer du contenu ensuite. Enfin, il a bien enchaîné, en fait.
Parce qu'il fait des choses sur TikTok.
Sur TikTok aussi, ouais.
Donc, il y a des artistes qui... Parce qu'on parlait du fait que c'est beaucoup repris, qu'il peut y avoir des extraits de clips aussi, puis que les gens, après, ils le reprennent à leur sauce, ils font des chorés, des machins, etc. On l'a déjà dit. Ou des vidéos d'humour, etc. Il y a aussi des artistes qui deviennent des créateurs de contenu TikTok.
Ouais, bien sûr.
Après avoir été exposé, c'est-à-dire...
Pas forcément, mais tout le monde est sur TikTok, de toute façon, aujourd'hui. Quand t'es artiste en maison de disque, si t'as pas TikTok, je pense qu'il y a cette fameuse polémique aussi, je pense qu'on voulait en parler, où les artistes se sentent ont la pression pour se mettre sur TikTok. Okay. Le label leur dit faites un TikTok, les gars, il faut, quoi.
Bah, on en parlait avec Fishback de ça, justement.
Ah oui, absolument. Mais donc, non seulement il y a les morceaux qui sont exploités, etc., mais en plus, on demande aujourd'hui en maison de disques aux artistes de faire des vidéos TikTok, de faire à la maison, machin, etc., d'alimenter leur TikTok.
Faut avoir une présence sur TikTok, quoi. Ça me paraît évident, en fait, Si tu veux toucher une audience quand même jeune déjà, c'est quand même une plateforme où c'est facile de devenir viral, où ta carrière elle peut être boostée juste avec une vidéo qui devient virale, donc ce serait bête de s'en passer, quoi.
Et c'est là où ça devient problématique, parfois.
Oui.
Parce que des gens s'en plaignent, comme on le disait. Ta connaissance, il y a des gens qui publiquement...
C'était une chanteuse américaine qui s'appelle Halsey, je sais pas si c'est quelque chose.
Oui, absolument.
Je crois que c'était une des premières à se plaindre de ça, il me semble. Okay. En tout cas, ça avait pas mal fait parler à ce moment-là.
Ouais.
Où clairement elle disait que la maison de disque lui disait faut faire des TikTok. Même Ed Sheeran, il me semble, il a fait une vidéo où il parle de ça, genre mon label me force à faire des TikTok, donc je vais faire un TikTok et voilà. C'était plus sur le côté avec un ton humoristique pour le coup.
Ouais. T'as aussi Gavin DeGraw, tu as Charlie XCX, Florence and the Machine, plein de gens qui publiquement ont dit la maison de disque me dit vas-y faut faire des TikTok, mon gars, et il me dit ça me casse un peu les couilles, quoi. Parce que c'est pas leur métier à la base.
Oui.
Pour mais, toi, mais, si, peut-être.
Mais, bah, maintenant, je trouve que ça fait partie du métier, malheureusement.
Oui, parce que toi, tu t'es rentré dans l'autre sens, du coup.
Ouais, après, moi, je fais des productions pour d'autres artistes, tu vois.
Mais t'as commencé,
Moi, j'ai fait un chemin un peu bizarre, moi, en vrai. Je suis d'abord,
t'étais dans le milieu.
Créateur de contenu. Ouais. Et maintenant, faut que je me fasse un nom en tant que producteur. Moi, j'ai un peu fait l'inverse. Ouais. Mais en tant que, quand t'es artiste interprète, en tout cas, ça me semble évident qu'il faut être sur TikTok aujourd'hui. Ce serait très bizarre de... C'est comme si, je sais pas, à l'époque d'MTV, tu disais...
Non.
Non, je joue pas mon clip.
Ouais, mais en même temps...
Ça peut marcher, hein.
J'ai envie de te dire, être un peu présent sur les réseaux sociaux, on le sait que c'est important de communiquer, etc., en tant qu'artiste. Ce qui est emmerdant, déjà, sur TikTok, c'est que comme t'as pas en vidéo, faut que ce soit toi directement. C'est-à-dire que, en théorie, c'est quand même le boulot de tes équipes, la promo, souvent. Alors toi, en tant qu'artiste, tu peux y mettre un peu la main à la patte, etc., tu peux apparaître, tu peux faire, venir en interview, par exemple, des choses comme ça. Mais il y a toute une partie de la promo qui est possible sans toi, sans que tu sois impliqué. Si on te dit, fais des TikTok, mon gars, en plus, on sait que le rythme de publication, il est idéalement soutenu. Exactement. Sur TikTok. Ouais. On demande de bosser, en fait, faire la promo à la place de gens qui sont censés le faire pour toi, quoi.
Ça fait partie du taf maintenant, ouais, c'est vrai. C'est dur, hein. C'est dur. Mais pour moi, ça me paraît indispensable, quoi.
C'est quoi, justement, tu parlais du rythme de publication. C'est quoi pour toi le.
Ah, ça, tu vois, tu lis tout. Il y en a qui. Dans mon algorithme, moi, j'ai souvent des. Je suis un peu là-dedans. Donc, il y a des gens qui disent, les gars, faut faire 5 TikTok par jour. Il y en a qui disent un TikTok par jour. Il y en a qui disent 3, tu sais pas. Il y en a qui disent 1 par semaine. Enfin, bref. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la régularité est importante. Mais ça, c'est sur tous les réseaux. C'est pareil sur YouTube, en vrai.
Ouais, bien sûr.
Mais sur TikTok, je trouve que c'est quand même particulièrement violent parce que t'es censé faire du contenu plutôt court, donc c'est souvent conseillé d'en faire un par jour.
Ouais. Toi, dans ton cas, tu...
Alors, en ce moment, je suis un très mauvais exemple, parce que j'en fais un tous les, je sais pas, je dirais 3 semaines, tu vois, ce qui est une éternité pour TikTok.
Mais parce que ces derniers temps, tu t'es consacré plus à la production musicale. Mais on va dire à ton pic d'investissement dans TikTok.
Quand ça a commencé à marcher, j'étais en mode... c'est le moment où jamais, il faut y aller à fond, et j'en faisais un par jour. Voire tous les deux jours au pire, mais c'était vraiment un par jour.
Ouais. Donc il y a quand même cette notion de matraquage, effectivement, pour rester visible.
Clairement.
Moi, je trouve ça emmerdant quand même quand... Enfin, tu sais, c'est toujours compliqué, c'est le fameux, tu sais, artiste-entrepreneur. L'artiste aujourd'hui, il doit être capable aussi de prendre en charge des éléments de sa carrière, parce que les maisons de disques, les labels, etc., sont toujours capables d'apporter un accompagnement, mais attendent aussi, avant de signer des gens, souvent qu'ils aient été capables de développer eux-mêmes une communauté.
D'avoir un minimum viable, en fait.
Exactement, d'avoir des chiffres à présenter, etc. C'est important. Et donc, il doit prendre en charge une partie des autres métiers, entre guillemets, que simplement faire de la musique.
Mais je pense
et
que
certains sont faits pour, mais pas d'autres, tu vois. Et c'est dégueulasse, en fait, d'obliger les gens à...
Bah, les profils de strict interprète à la Johnny ou tu vois, à la Céline Dion, je pense qu'en vrai, c'est plus le profil d'un artiste du 21e siècle, tu vois. Je pense que il y a beaucoup de trucs autoproduits, de home studio, de gens qui travaillent avant, enfin, tu vois.
Ça, tu as raison. Il y a encore des interprètes, en réalité, dans la pop, dans la chanson française, il y a encore des purs interprètes.
Ah ouais, mais alors, récents?
Je pense.
Et vraiment qui ont, enfin, qui font un peu à l'ancienne.
Ou qui font un peu les deux. Je sais pas, par exemple, ce serait intéressant, une Clara Luciani, est-ce qu'elle écrit tout? Je suis pas sûr. Ouais, absolument tout, ok.
Enfin, tout, j'en sais rien.
La plupart de ces produits, ok.
Ouais.
Et ça serait intéressant de voir, effectivement, est-ce qu'il y a encore des purs interprètes.
Profils purs interprètes.
Pareil, Angèle, elle écrit.
Ouais, et puis Angèle, elle est présente ailleurs aussi, elle est sur les réseaux, machin. Ouais. Donc, tu vois,
est-ce qu'on pourrait parler de hip-hopisation de tous ces genres?
Bah, un petit peu, ouais, de bricolage, en tout cas.
L'authenticité essentielle, ça doit devenir de nous aussi le texte, tu vois.
Mais parce que, en fait, ce que les réseaux aiment bien, et ça, c'est ce que moi je constate sur toutes les plateformes, c'est aussi du backstage, des coulisses, de la vie quotidienne, tu vois.
Ouais.
Et je pense que tu peux toucher plus de monde quand ils te voient en train de faire tes courses au Carrefour Market, parce qu'ils disent, waouh, en fait, cette personne est un peu comme moi, tu vois, elle fait ses courses aussi, tu sais. C'est pas que limousine, tapis rouge, garde du corps, tu vois.
Ouais. Et en même temps, tu vois, dans le dernier épisode, on avait reçu Fishback, qui est, en l'occurrence, autrice, compositrice, interprète, elle fait tout. Pour autant, sur le texte, elle se fait souvent accompagner. Et elle nous disait dans l'émission, mais les gens avec qui je travaille, parfois, ils expriment mieux ce que j'ai envie de dire que moi.
Ouais. Ça me choque pas, ça me paraît normal. Ça peut être du travail d'équipe, hein, écrire une chanson. Tu peux pas tout faire, quoi. Tu vois, et puis c'est... Je sais pas, je trouve ça pas honteux de se faire aider.
Ou de chanter même
un métier,
le texte de quelqu'un d'autre, d'ailleurs.
Ouais, complètement. Ça se fait beaucoup.
Mais du strict interprète qui peut faire une carrière en touchant à rien d'autre, tu vois, un peu en mode diva, en vrai de vrai.
J'imagine que ça se fait de moins en moins, en tout cas.
Je suis pas sûr que ça soit le profil même recherché par les gens, tu vois.
Ouais.
même en tant qu'artiste. Hein. Je pense qu'il y a personne qui se réveille un matin en disant moi je veux faire que chanter. Le reste je m'en fous, tu vois.
C'est possible.
À mon avis, un peu compliqué.
T'as cité parmi les gens qui se plaignaient de TikTok avec humour à Ed Sheeran. Il y a un truc qui est arrivé récemment. C'est un peu, je pense, le. De toute façon, il y a un paradoxe aujourd'hui dans la musique parce que les artistes se plaignent de certaines choses, en même temps, ils sont obligés de jouer certains jeux aussi. Et typiquement, Ed Sheeran, à mon avis, il n'est pas satisfait de devoir faire du TikTok, etc. tout le temps. Pour autant, son dernier morceau, qui s'appelle Eyes Closed, qui sort le 24 mars, okay. dans quelques jours au moment de l'enregistrement de cette émission, il est disponible en exclusivité 6 jours avant sur TikTok.
Ah ouais,
une preview. Okay.
Ah ouais.
Qu'ils ont dealé, c'est exclusif à TikTok. Mmh.
Une vraie preview,
si on va voir
15 secondes.
Peut-être, je sais pas combien de temps. Mais en tout cas, voilà, l'exclusivité d'un morceau de peut-être l'une des plus grosses pop stars du monde.
Ouais.
Tu vois, indéniablement, Ed Sheeran.
Donc, ouais, c'est-à-dire que le réseau fait même partie intégrante de l'outil marketing.
Absolument.
Ah ouais, ça c'est sûr.
Ouais.
Ouais,
bien
sûr. Est-ce que tu aurais d'autres exemples de cette révolution un peu marketing dans l'industrie musicale, le fait de vraiment prendre en compte TikTok à fond, tu vois, qui c'est une autre illustration de tout ça?
Alors, il y a le fait, il y a les playlists sur TikTok.
Okay.
Donc, quand quelqu'un fait une vidéo sur TikTok, tu filmes ta vidéo. Si tu veux rajouter, t'es pas obligé, mais en général, tu veux rajouter du son, une musique à ta vidéo, tu vas sur, tu fais ajouter un son.
Okay.
Et là, tu te retrouves sur une page où il y a différentes playlists.
Okay.
Comme sur Spotify. Donc, t'as la playlist, je sais pas, été.
C'est pour illustrer, en fait, avec de l'audio ta vidéo.
C'est ça, exactement.
Tu pioches dans un catalogue.
Voilà. Donc, soit tu sais déjà ce que tu veux mettre. Donc, tu vas taper, Lady Gaga, Bloody Mary.
Okay.
Ou soit t'as des playlists qui t'aident à faire ton choix. Donc, t'as, comme je disais, playlist été, playlist top 50, playlist, j'en sais rien, sleeping, dormir.
Okay.
Et du coup, ça, c'est des trucs que que les maisons disent pitch à TikTok. Okay. Donc, t'as des gens chez TikTok qui font cette playlist, qui choisissent ce qu'il y a dans ces playlists. Et du coup, ça fait partie des stratégies marketing des labels.
Quand tu dis pitch, c'est-à-dire il...
Je sais pas, typiquement, on a un titre... Enfin, t'as un label de musique,
ouais.
Tu sors un titre un peu... Enfin, chaque semaine, en gros, tu vas pitcher des titres, on dit ça comme ça. Donc tu vas dire, ok, TikTok, regarde, on a ces titres-là qui sont sortis cette semaine. Celui-là, il irait bien dans la playlist été.
Ah,
celui-là, il irait bien dans la playlist dance,
je
sais pas quoi. Et du coup, les gens qui font des vidéos sur TikTok ont plus de chances d'utiliser ces sons-là. Voilà, c'est...
Oui, c'est un autre exemple. Tu l'as vécu, toi, tu l'as vu, ça?
Ça, je l'ai vu, ouais. Ouais.
Mais donc, ce pitch-là, il est, c'est une transaction totalement,
gratuite.
Gratuite. Où il y a quand même une valise de billets qui passe à un moment donné.
Non, bon, moi, j'ai jamais vu ça, en tout cas, mais.
Oui, une cafetière toute neuve, ou, un nouveau scooter.
Une espresso,
ouais.
une télé. Non, c'est plus des arrangements, tu vois, c'est ce qui se fait aussi, sur toutes les plateformes, en vrai, hein.
Ouais,
tu dis,
éditorial.
Ouais, tu sais pas, genre, les trucs qui se font, c'est... Ok, on va te mettre en bannière sur Apple Music, j'en sais rien. Mmh. En échange, ton artiste, il va faire un post sur Insta où il va dire « Allez écouter mon titre sur Apple Music », tu vois. C'est des échanges de bons...
Et puis, il y a souvent des packages promo en réalité, voilà. Où il y a plus intégration dans une playlist, plus machin, etc.
C'est ça, c'est des échanges de bons procédés. Ouais. Mais jamais Apple Music va te dire « Ok, file-moi 1000 balles pour la bannière », ça se fait
Apple
pas.
Apple Music, non, mais le mec qui a la main sur le bouton, ça reste des humains.
Mais non, il est incorruptible.
Il doit y avoir des trucs en off qui se passent, j'imagine. Ouais.
On a bien parlé, je pense, du rapport de TikTok avec l'industrie, de ce que ça modifie. Il y a quand même un truc avec du bon et du moins bon, on l'a vu. Il y a un truc qui est indéniable, c'est que c'est aussi un espace de créativité, TikTok. Pour les indépendants, en l'occurrence, là, plus pour les gens qui sont dans le sérail, dans l'industrie pas professionnelle, etc. Et j'aimerais qu'on en parle un peu, notamment en s'appuyant, toi, sur ton expérience, parce que, mine de rien, ça fait partie de... Ça a été, en tout cas, ta stratégie de dire, moi, je suis musicien à la maison, entre guillemets, je vais proposer du contenu, je vais me montrer, etc., pour essayer de me professionnaliser de plus en plus dans la musique au fur et à mesure. J'imagine que c'était ta stratégie.
Oui, c'est ça. Après, c'est comme je disais au tout début, j'avais pas vraiment de plan précis dans la vie, quoi. Enfin, dans la vie. À ce moment-là, je savais pas. En fait, j'allais sur TikTok parce que, comme je disais, c'était l'endroit où tu pouvais toucher le plus de monde le plus facilement. Alors, sans être, en étant personne, quoi. J'étais personne. Et tu pouvais toucher quand même tu faisais quand même des centaines de milliers de vues, quoi. Ce qui était incroyable. Donc, moi, c'est pour ça que je suis allé sur TikTok. J'ai complètement oublié la question. Je suis désolé.
Non, mais, on rentre dans cette troisième partie du podcast. Et c'est illustrer un peu ce qu'on peut trouver en termes de diversité. Plus là, des artistes pro, machin, etc. Mais musicalement sur TikTok. Mais tu voulais dire un truc? Ça peut se mêler un peu à ça?
En fait, ce que toi, tu proposes comme contenu, c'est pas de la musique que toi, tu produis. C'est plus des trucs didactiques.
C'est ça.
Des explications, etc.
C'est-à-dire
que tu peux par ailleurs être producteur de musique et ne pas mettre ta musique en avant, mais proposer autre chose. Et c'est ce que toi, tu fais. Et je pense que c'est aussi une démarche qui est intéressante à voir.
Parle-nous de toi, ce que tu fais et aussi d'autres trucs qu'on trouve sur TikTok autour de la musique, plutôt créatif, que tu trouves intéressant.
Bah, alors moi, du coup, pour mon cas personnel, c'est vraiment des tuto.
Ouais.
J'ai tenté, en vrai, j'ai tenté, comme je disais, moi, j'ai, mon premier TikTok, c'était, été 2019. Et j'ai eu mon premier, ma première vidéo un peu virale, c'était avril 2020, exactement. Okay. Donc, presque un an plus tard. Entre temps, j'ai pas posté non plus des centaines de vidéos, mais j'ai testé plusieurs trucs. Et du coup, comme je disais, le format qui a vraiment marché pour moi, ça s'est fait un peu par hasard. En vrai, c'est une vidéo que j'ai shootée un peu au pif, quoi. Et c'est juste, je reprenais un tube TikTok du moment. Et je le reconstruisais piste par piste, quoi. Comment il a été fait, avec un petit côté humoristique et tout. Et pourquoi je dis ça? Ben voilà, ça c'est mon format qu'a pris pour moi sur la plateforme. C'est ce qui m'a permis de démarrer tout ça. Et après, ouais, il y a beaucoup de tutos. Hein, ça dépend de. Il y a des mecs qui font des les trucs qui marchent beaucoup sur TikTok, c'est les remixes en vrai.
Ok.
T'as plein de formats. T'as les chanteurs aussi qui font. Ça c'est peut-être un peu moins maintenant, mais il y a une chanson connue, ils font « Moi je suis en bleu, toi t'es en rouge » et « En violet c'est nous deux », vous avez jamais vu ça?
Non, qu'est-ce que c'est que ça?
en gros, je sais pas, il y a une chanson du moment,
ouais.
Et le chanteur va dire va mettre les paroles, en bleu c'est lui qui chante,
okay.
Et quand il met les paroles en rouge, c'est toi qui es censé chanter, donc en fait t'es censé, okay, faire un duo avec ce TikToker, et voilà. Et okay, ça marche, en tout cas ça a cartonné pendant un moment, je sais pas, okay, si ça se fait encore beaucoup. Ça c'était un peu un des formats phares, je trouve, de TikTok, au niveau des chanteurs, en tout cas.
Ouais.
Et t'as des remixes, comme je disais, un truc qui se fait beaucoup, c'est, je sais pas, une vidéo TikTok qui devient virale. Le producteur, il prend l'audio de cette vidéo et il en fait une chanson. Ça ouais, s'est beaucoup vu. Et ça cartonne. Les gens adorent ça sur TikTok.
Okay.
Parce que c'est un peu, c'est fun, quoi. Ça marche bien.
T'as plein de mecs aussi, j'imagine, qui font de la musique, qui font de la guitare, qui font du modulaire, j'en sais rien. Enfin, j'imagine qu'il y a absolument tout. Moi, je suis déjà tombé même sur les trucs de mecs qui font du punk ultra indé sur TikTok. Ils sont pris. Enfin, c'est pas que du truc ultra mainstream, etc., quoi.
Il y a tout, Maintenant, c'est vraiment, c'est YouTube, de toute façon, maintenant. Il y a vraiment absolument tout.
Mais sur un format quand même limité en temps.
Ouais, après, on a 10 minutes, maintenant.
Maximum. Ouais, c'est vrai, 10 minutes, on marque.
Après, j'ai jamais regardé une vidéo de 10 minutes sur TikTok, je vais pas mentir, mais.
Parce que même l'écran, il tremble pas, tu sais, au bout d'une minute, quand on dit, vas-y, c'est bon, zap, ça fait 10 minutes, mais quand même, vas-y. Ouais. Parce que on parlait de revenus publicitaires, mais en fait, ça marche comment? C'est-à-dire que tous les X stories, t'as une, enfin, tous les X,
TikTok,
ouais. T'as un pub. TikTok de pub.
Parce que, est-ce qu'on peut, okay, en fait, on parle à des indépendants, est-ce qu'ils peuvent vivre à travers TikTok de leur musique ou de leur contenu?
Alors c'est pas la monétisation de TikTok, non, enfin c'est pas que avec TikTok, non.
Okay.
Par contre TikTok va leur amener des streams sur les plateformes et là ils peuvent éventuellement en vivre, oui. Okay. Mais c'est pas la monétisation de TikTok qui va les faire vivre. Non,
ça, comment c'est... Daz voulait savoir un peu comment ça se passe la monétisation de TikTok.
On parle pognon.
Ouais. Ouais.
Écoutez, jusqu'à l'été dernier, c'était le fonds créateur, ils appelaient ça.
Okay.
Et en gros, t'étais rémunéré à la vue, tout simplement. Et
donc c'est un pot commun qui a été splitté après.
Ouais, en fait, plus tu fais de vues, plus t'es payé, tout simplement.
Mmh. Et je suis pas sûr que ce soit un pot commun. C'est pas.
Non. Enfin,
parce que le fond, il vient d'où, du coup?
De TikTok. Ils avaient mis
des revenus publicitaires, j'imagine, oui, effectivement.
D'accord. Et, bon, okay.
Mais il y avait une somme d'argent qui était mise de côté et c'est le même fonctionnement que YouTube, là, en vrai, pour le coup. Ouais. Sauf que là, le CPM était ridicule, genre vraiment ridicule. Tu pouvais faire 1 million de vues et je pense que ça te ramenait, je sais pas, 10 euros, j'ai envie de dire. Peut-être un peu plus, quand même. Mais c'était assez ridicule. Et depuis l'été dernier, ils ont annoncé la nouvelle monétisation, qu'ils appellent la monétisation, le fonds bêta pour les créateurs. Et là, c'est pour les vidéos de plus d'une minute. Donc, à partir de 1 minute 01, ta vidéo est qualifiée pour entrer dans cette nouvelle monétisation.
Okay.
Et là, t'as un meilleur CPM, donc coût pour 1000 vues, comme on dit.
Okay.
Et là, c'est 1 euro les 1000 vues.
Voilà. Ok.
Ce qui se rapproche de YouTube à la belle époque. Mais par contre, du coup, ça veut dire que implicitement, ils encouragent les gens à faire des vidéos d'une minute,
ouais,
ce qui va à l'inverse de leur modèle initial.
De toute façon, c'est pas un secret. Ils veulent j'allais dire baiser YouTube. ils veulent niquer YouTube, quoi. Maintenant, c'est sûr, c'est leur concurrent. C'est un énorme concurrent.
Ouais, mais du coup, structurellement, ça peut même changer complètement le rapport à l'appli. C'est-à-dire que si moi, je me mets sur TikTok maintenant, j'aurais pas du tout le même feeling de navigation et de contenu que quelqu'un qui a commencé au tout début, quand c'était des shorts de
10
secondes.
Ils se sont peut-être dit aussi que s'ils mettaient cette monétisation qui est un peu plus importante, où quand tu tapes le million de vues, en gros, t'as entre 500 et 1000 balles, pour faire simple,
ouais,
et bien, vu le nombre de petits compte à 1 million de vues, oui, à moins d'une minute, etc.
Ils allaient moins distribuer.
Leur fond, il allait vite fondre, tu vois. Ouais. Peut-être, je sais pas.
Ouais, c'est vrai que c'est aussi une technique de se dire.
On élimine une partie des créateurs, tu vois, c'est à partir d'une minute.
Moi, je vois plutôt.
Ouais.
Moi, je vois plutôt c'était juste pour garder les gens sur TikTok, pour pousser les gens à créer sur TikTok.
Oui, mais nous, on est beaucoup plus cyniques.
Parce que pour moi, c'est genre, à l'époque, Dailymotion, YouTube.
Ouais.
YouTube a écrasé Dailymotion, notamment parce qu'ils payaient les créateurs, alors que Dailymotion, pas du tout. Et je pense que
pourtant, il y avait de la thune à une époque.
Dailymotion, à un moment donné. Mais Dailymotion, ils payaient les streams. Une fortune. C'est ça qui a permis à plein de web-tv de se créer.
Pour moi, n'importe quoi. Je sais pas, pour plutôt les témoignages des youtubeurs de l'époque, Mr. V et tout ça, je sais qu'ils sont passés sur YouTube.
Oui, parce qu'il y avait une monétisation.
C'est quand même un des gros arguments pour garder les créateurs sur ta plateforme.
Ouais, mais du coup, par rapport à des gens qui sont habitués, tu vois, pour moi, te dire, OK, on te paye si ta vidéo fait une minute. Quand toi t'es habitué à faire des chorégraphies de 12 secondes, c'est pas naturel.
Ouais,
le...
Bien sûr. Ah bah ouais.
Et une chorégraphie d'une minute, en vrai c'est chiant même à regarder, tu vois.
Ah mais personne fait ça. Mais ça c'est sûr qu'il y a des créateurs qui vont. Après rien ne t'empêche de continuer à faire des chorégraphies de 15 secondes.
Ouais, mais tu seras jamais payé du coup.
Tu seras payé à l'ancienne. Donc beaucoup moins.
Avec un CPM.
Après t'as toujours des partenariats. Enfin, c'est sûr que les gens qui étaient habitués à faire des trucs de 30 secondes. C'est relou pour eux, quoi. Ouais. C'est comme la monétisation, ça, c'est sûr.
Non, c'est marrant, comment tu peux, tu sais, décider de te dire, tiens, je vais fumer la moitié de mes utilisateurs actifs.
C'est cruel, hein.
Mais du coup, donc ça, c'est la rémunération propre à la plateforme. Mais donc, est-ce que c'est possible aussi de faire des TikTok sponso?
Bien sûr,
ouais. Donc comme Insta, etc.
Tous les réseaux, hein.
D'accord.
C'est souvent d'ailleurs, pour les gros, en tout cas, créateurs de contenu, c'est souvent une source de revenus plus importante en réalité que ce que propose la plateforme directement.
Ouais. Clairement, ouais.
T'as déjà fait, toi, de la sponsor, les trucs comme ça?
Ouais, quelques-unes, ouais. Pas énormément, en vrai. Je suis un très mauvais influenceur, on va pas se mentir. Je suis pas.
Tu fais de la musique, c'est quel type de marque qui peuvent être intéressées?
J'ai la SACEM, là, qui va arriver prochainement. Ouais. J'ai Arturia.
Ok.
Dernièrement, là, je parle de ma dernière.
Concepteur d'instruments.
Du coup, Arturia, t'es obligé d'avoir leurs produits dans ta story
ou enfin dans mon TikTok. Ouais, exactement.
Pardon,
ouais.
J'utilise les termes Instagram.
Il y a des stories TikTok. Oui.
Ah, bah alors.
Que je n'ai jamais eu. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais eu cette option, moi.
Ok.
Mais il y a les stories TikTok. Ça existe. Je suis pas sûr que ça marche très bien.
Ouais.
Mais ça existe.
Ok, donc ça sème Arturia.
Ouais, j'ai quoi d'autre? Je vais te dire ça tout de suite.
T'avais fait un truc avec la RATP, j'ai une connerie.
Tout à fait.
C'est rigolo ça.
Oui, c'était sympa.
Tu devais remixer des extraits, faire des annonces RATP, des trucs comme ça.
Ouais, genre attention, des pickpockets sont sur les villes de dans cette station.
Je sais pas s'il avait choisi ça.
J'avais pas fait ça. Non. J'avais l'Eurovision aussi, c'était cool.
Ah,
ouais.
Okay.
C'est quand même.
C'est cool.
C'est des belles marques, ouais. C'est pas des crèmes blanchissantes ou des trucs massants bizarroïdes, là.
Ouais. Non, c'est plutôt des trucs. Après, j'accepte aussi parce que c'est cool, tu vois, mais. Voilà. Non, je l'ai pas fait tant que ça, en vrai.
Mais c'est eux qui sont venus te chercher?
Ouais, à chaque fois. Moi, je démarche rien du tout, en fait.
Donc, ils ont vu ton audience, ils ont dit, OK, lui, d'accord.
Ouais, après. Bah, il fut un moment où, je pense que c'est moins le cas aujourd'hui, je pense que je suis un peu moins attractif pour les marques, je sais pas. Mais, il fut un moment où j'étais quand même un des gros, influenceurs musique de la plateforme, quoi, en France. Parce que j'ai aussi une audience presque que française.
Ouais.
Ce qui est cool pour les partenariats.
Ouais.
T'as d'autres exemples de gens qui font du contenu musique et qui sont vers la professionnalisation, pas des gens vraiment qui de l'industrie ou qui sont devenus pas des exemples WageDen, etc. Tu vois, dont on a parlé, mais qui font un peu des choses comme toi et que tu vois que de plus en plus ça prend pour eux de faire de la musique en parallèle. C'est vraiment une stratégie partagée, ça, de dire moi je fais du contenu sur TikTok et j'espère vivre de ma musique un jour.
Oui, ça c'est sûr. Il y a un français qui est très fort. Que vous avez peut-être déjà vu, qui s'appelle The Gadget, qui est un pote à moi maintenant.
Non, je connais pas du tout.
Et qui fait des remixes. Comme je parlais, tu vois, il prend une vidéo un peu virale, un mème un peu.
Ouais.
Et il arrive à en faire un son.
Okay.
Il est trop fort. Il est français. Les gens le savent pas trop parce qu'il parle pas trop. Enfin, si, il parle. Mais il a une audience très. Il a genre presque 2 millions d'abonnés, je crois, un truc comme ça.
Ah oui.
Mais très international. Il a une audience très internationale.
C'est-à-dire, genre, il prend une vidéo avec un chat qui miaule et il te fait un morceau de.
Ouais. Ouais. Okay.
Parce que j'ai vu ça hier, c'est pour ça.
Ça peut être ça. Ouais. Il a fait vraiment des trucs énormes qu'on cartonnait, quoi, de ouf.
Parce que les trends, la créativité, etc., c'est toujours pareil sur les réseaux, ça vient des États-Unis où tu peux vraiment avoir un truc qui vient, puisque le réseau est chinois. Est-ce qu'il y a une forte... Enfin, non, parce que tu disais que finalement, TikTok, tel que nous, on l'utilise, les Chinois l'utilisent pas. Ils ont leur truc...
Ils ont Douyin. Ouais, d'ailleurs, il y a une rumeur comme quoi ils servent de TikTok pour abrutir à l'Occident.
Alors oui.
Eux, ils ont.
Parce que le contenu est pas partagé entre Douyin et TikTok.
Non, c'est ça. C'est pas. C'est, apparemment, j'en sais rien, mais apparemment c'est pas le même contenu. Et sur Douyin, c'est beaucoup plus intellectuel, enfin c'est pas des conneries de chorégraphie.
En tout cas, je sais que j'ai déjà lu que pour un certain âge, ils limitent le nombre d'heures possibles de consultation par jour.
C'est le côté dirigiste un petit peu de l'empire du milieu qui est pratique sur certains aspects.
Ouais. Mais je crois que c'est le cas aussi, ça, il me semble que ça va arriver, non ? Il n'y a pas un truc comme
non.
ça ?
Non, du tout. En France ? Enfin, en Europe en tout cas ?
Non, ça vous dit rien ? Ok.
Nous, on est sur mettre ton identifiant fiscal sur les sites porno, mais je crois pas que...
je sais que t'as un message, moi j'ai jamais vu, parce qu'en vrai, je scrolle très peu, mais je sais qu'au bout d'un certain moment, t'as un message
genre... Ah oui, une pause.
Ouais, voilà, non, c'est vrai, c'est ça, ouais.
Tous les 20 TikTok, la pause s'impose.
C'est ça.
Il y a un truc que j'aime bien, moi, pour être un peu positif, parce qu'en vrai, Daz disait que lui, il aime pas particulièrement ce réseau, parce qu'il y a plein de trucs critiquables, et notamment le fait que c'est... Ça uniformise à fond la musique de manière générale, parce que globalement, effectivement, c'est 30 secondes d'un morceau qui doit être absolument accrocheur, c'est le hook, etc.
En fait, j'ai l'impression d'être, par moment, je sais pas si vous vous rappelez de ce film Demolition Man, avec Sylvester Stallone et Wesley Snipes, où Stallone se fait congeler parce qu'il a fait une connerie, et on le réveille 30 ans après, on est en 2035, et il se rend compte que les gens, en fait, consomment la musique, ils écoutent que des pubs. Donc ils sont dans la voiture, tu vois,
OK, il y a un truc comme ça dans le film.
Ouais, dans le film en fait, ils écoutent en fait, ils chantent, tu vois, ils tournent avec deux flics qui sont donc de 2035 et qui mettent la radio et puis chantent des pubs. Et là, il fait bah vous avez pas de chanson en fait, et tu vois, c'est rigolo, mais ce truc là, il était visionnaire de ouf en fait, parce que on se rapproche de ça, tu vois, d'une écoute de la musique qui est très 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 raccourcie. On parlait déjà du troisième couplet qui avait sauté dans toutes les chansons, tous les morceaux hip-hop de ces dernières années, et en fait si tu habitues les gens à ne consommer que 30 secondes de ta musique au point où tu te sens obligé de mettre entre parenthèses de ton titre sur les plateformes la phrase qui est prononcée dans l'extrait, tu dis waouh, en fait le gars en question, il était même à deux doigts de ne livrer dans Spotify que le morceau de 30 secondes, tu vois.
Toi, en tant que producteur, qu'est-ce que t'en penses? Ça t'effraie aussi cet aspect?
Ça m'effraie, l'aspect quoi, l'aspect où c'est juste un extrait de 30 secondes qui marche.
C'est ça, et que
sur les modes de consommation, peut-être que ça peut influencer.
Ouais, non, je trouve ça plutôt non, je trouve ça très bien, parce que tu peux avoir un titre, tu dépends plus de, je sais pas, il y a 30 ans en arrière, tu dépendais de, si tu voulais être diffusé auprès du grand public, bah tu devais passer à la radio ou à la télé, quoi, t'avais pas trop le choix. Du coup, tu dépendais de du programmateur de je sais pas, d'Énergie, Virgin Radio. S'il aimait pas ta tête ou il aimait pas ta chanson, c'était foutu pour toi, quoi.
Ouais.
Alors qu'aujourd'hui n'importe, je peux attendre n'importe qui avec juste mon téléphone.
Oui, c'est vrai que le formatage, en fait, quelque part, on l'a toujours eu. Mais à l'époque, t'avais des radio edits, puis des extended versions et des, tu vois.
En fait, c'est pour moi, c'est toujours pareil. Tu as raison. Mais fondamentalement.
Souvent, c'est vrai.
Tout format, quel que soit le support, qu'il soit physique ou numérique, d'ailleurs, même aujourd'hui, implique des limitations. On pourrait dire d'ailleurs qu'avec le numérique, non, mais en fait, comme ça passe ensuite par un canal, un réseau spécifique, etc., qui a ses propres codes, en réalité, c'est une forme de, tu vois, de limite aussi. Et pendant longtemps, on pouvait pas faire d'album avec 15 morceaux dessus, ultra long, machin, etc. On pouvait pas faire d'opéra rock ou je ne sais quoi. Tu vas faire des trucs impressionnants parce qu'on était limité par la gravure, etc. On avait des petits singles de 2 minutes, joyeux, machin. On avait aussi des merdes. Et aujourd'hui, on a d'autres types de limitations, ce qui peut être frustrant parfois. C'est pas un problème qu'il y ait, tu vois, différents codes, etc. C'est quand des codes prennent complètement le dessus sur les autres. Et quand, notamment parce qu'il y a des raisons économiques derrière, ça devient le seul modèle viable. Et que donc, il appauvrit un peu l'ensemble quand même, parce que les gens, ils veulent aussi bouffer avec leurs trucs, et qu'ils sont tellement poussés à faire que ça, que c'est un peu triste parfois pour l'art, tu vois. Mais en tant que tel, est-ce qu'on peut le reprocher qu'à TikTok? Je suis pas sûr. Et surtout...
Bah, il est quand même prescripteur, le réseau.
Non, mais je suis d'accord. Mais surtout, ce qu'il faudrait, c'est que... Tu vois, je vois là, par exemple, je sais pas si vous avez vu Apple Music... sort Apple Classic.
Ah non, j'ai pas vu.
Qui en fait leur catalogue de musique classique sera intégré, ça sera dans l'abonnement Apple Music, hein, mais il y aura une appli indépendante dédiée au classique, et j'imagine qu'en fait ils adaptent aussi l'application, l'interface, etc., au classique, qui est une consommation différente, mine de rien. Tu peux pas juste intégrer ton catalogue classique sur ton Spotify classique ou sur ton Apple. Bon, en tout cas, c'est pas ce qu'ils ont considéré comme le plus pertinent.
Ouais,
je sais pas, que c'est des morceaux plus longs, c'est des trucs en mouvement et tout.
Avec le classique, il y a ce gros débat depuis quelques années, c'est la monétisation. Parce que la monétisation sur les plateformes de streaming, c'est au nombre d'écoutes.
Oui.
Et donc, ça veut dire que un titre de 10 minutes est autant payé qu'un titre de 1 minute 30, ce qui est un peu débile, en vrai, quand on y pense.
Ouais, mais d'un autre côté, le classique, le catalogue est gratuit, puisque tous les morceaux sont libres.
Non, mais papa, il y a les interprètes aussi, hein.
Ah ouais? Parce moi, non, parce que tu joues du Beethoven, personne va te faire chier, en fait.
Bah, il faut que les interprètes et le producteur, celui qui a enregistré, etc., ils soient payés aussi. Ah, c'est juste que la composition, effectivement, elle peut être dans le domaine public, libre de droit, dans le domaine public, effectivement. Mais par contre, il y a des gens à payer qui ont travaillé sur un enregistrement précis, c'est normal, tu vois.
Ah ouais, ok. Bien sûr. Je pensais qu'ils faisaient ça gratos.
Ah non, non, non.
C'est vrai, en fait, dans les repensants, c'est stupide, mais ouais, ok.
Mais pour dire que peut-être qu'il faut aussi un peu plus d'offres, après, c'est évident que le public est moins important, mais des offres un peu plus niches, qui ramènent une écoute plus qualitative, plus dans la longueur, etc. Ah ouais, et avec un modèle économique peut-être effectivement un peu plus favorable à ce type de proposition. Mmh. Et c'est ça dont on manque, je pense. J'ai pas que envie de taper sur les trucs courts, parce que ça peut aider, comme tu l'as dit aussi, mais il faut une proposition.
Donc, il faudrait que les plateformes prennent en compte le genre musical pour adapter
la
monétisation.
Ouais, ou même l'ergonomie.
Honnêtement, j'ai pas de réponse, hein, mais... Il y a peut-être des trucs à imaginer. Le seul truc, moi, en tout cas, c'est éviter qu'il y ait un seul type de musique qui bouffe tout le reste.
Ouais.
Voilà, de manière générale.
Comme le rap le fait, par exemple.
Ce qui est le cas, ce qui est déjà le cas, en fait.
Ouais. Mais bien sûr, on est bien d'accord. Et c'est là où, par exemple, les pouvoirs publics entrent en jeu. Il y a la subvention, etc., qui permet de faire vivre aussi des genres qui, on sait, seraient pas viables normalement.
Oui, et le quota francophone à la radio aussi.
Par exemple, des choses comme ça.
Merci Jacques Toubon, Jacques Allgood.
Typiquement, la musique classique, en l'occurrence, je sais pas si c'est celle qui en a le plus besoin, mais on sait qu'elle est ultra subventionnée, par exemple.
Ouais.
Il faut la garder cette musique, tant mieux, parce que c'est pas une musique populaire, tu vois. En même temps, il y a peut-être d'autres choses à faire en parallèle, mais bref, c'est encore un autre débat. Mais ce que j'aime bien, à la base je voulais parler de ça, parce que TikTok, il y a quand même des aspects positifs, honnêtement.
Oui.
Et c'est sur le fait que, comme tu le disais, n'importe qui peut proposer sa musique facilement. Et surtout, ce que j'aime, c'est que même des non-musiciens, entre guillemets, peuvent se réapproprier la musique. Parce que à travers, donc on a parlé tout à l'heure, on a évoqué le speed up, le nightcore, le daycore, le slow down reverb, tout ça en fait c'est des trucs très qui existaient dans la musique avant. Tu parlais du chop and screw, etc., mais qui sont inscrits dans la culture internet où n'importe qui, avec un logiciel basique, voire directement dans une application, peut mettre sa patte en accélérant le morceau, c'est le speed up, en machin, etc. C'est pas de la grande composition, mais mine de rien, ça permet que tout à chacun
s'approprie
la musique. Peut-être que ça va le mener à en faire dès plus tard, etc. Ça c'est un aspect que je trouve intéressant sur TikTok. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Le côté, j'ai un exemple en tête, j'en parlais, la Talking to the Moon, qui était un bon tube TikTok. Alors en fait, à la base c'est une chanson de Bruno Mars, qui ensuite a été rechantée par un anglais, il me semble, j'ai oublié son nom, mais ça a été rechanté par un anglais, et ensuite cette reprise en anglais de l'anglais a été remixé en version drill par un mec qui vient de Gambie, il me semble, si je dis pas de conneries, et ça a donné un tube. Donc en fait, c'est je trouve ça assez fou, cette collaboration entre des gens qui sont jamais vus de leur vie, et ça brise des barrières que, je trouve ça fou, quoi. C'est facile de, comme tu disais, se réapproprier un son, et là, c'est le remix d'une cover d'une chanson de Bruno Mars,
incroyable,
qui a pété en radio, streaming partout, quoi.
Il y a aussi des cas, j'ai vu des trucs, tu sais, des duos, tu parlais donc cette possibilité de pouvoir réagir à une vidéo par-dessus, des duos qui se font avec des mégastars, c'est-à-dire un inconnu dans sa chambre, et tout d'un coup qui se retrouve en fait à collaborer, alors avec de la distance en réalité, mais il fait un featuring entre guillemets avec ses idoles, par exemple. C'est des histoires rigolotes, sympas, tu vois.
Oui, bah c'est toujours les histoires qu'on va te sortir en mode regardez, c'est magique, avant nous c'était impossible. Oui. Bah c'est du storytelling.
Non, mais il y a une part storytelling, t'as raison.
Ouais, bien sûr.
Bien sûr.
C'est tout à leur honneur.
Mais c'est un outil dont fondamentalement on n'a pas besoin, TikTok, on est d'accord. Et on nous dit qu'on en a besoin, oui.
Non, mais complètement, mais voilà, en fait, de la même manière que, effectivement, ce que vous dites par rapport à l'accès à la musique, ce que j'évoquais au début par l'accès au montage et à la vidéo pour des gens qui sont complètement néophytes sur le sujet, moi, c'est toujours un truc que je trouve cool, tu vois, de se dire on met les outils dans les mains des gens, à des gens qui peut-être auraient jamais eu l'idée de s'approcher d'une caméra, d'une table de mixage, d'un ATM, de ce genre de truc. Et au final, tu peux avoir des vocations qui se créent. Donc c'est cool. En vrai,
le problème, c'est que tu peux vite tomber dans l'alignation.
Ouais, voilà.
Tu deviens complètement fou avec le truc. Il faut produire sans cesse, faut machin, etc.
Ah, bien sûr.
C'est pour ça que je trouve que ta démarche à toi, elle est quand même intelligente et viable. Parce qu'en fait, ce que toi, tu comptes faire en tant que producteur de musique, c'est pas ce que tu mets en avant sur la plateforme, et du coup t'es pas enfermé par la plateforme en mode staccanoviste, il faut absolument que je produise des sons, tu vois.
Et parce qu'il se peut se le permettre aujourd'hui, peut-être que c'était pas ta philosophie à une époque où t'étais dit je me mets à fond parce que c'est comme ça que je vais péter.
C'est vrai que mes contenus, en fait je me mets très peu en avant moi dans mes contenus, c'est plus des tutos, quoi, tout simplement. J'aime bien apprendre des trucs aux gens, j'adore quand on me dit je me suis mis au beatmaking grâce à toi, enfin je reçois de temps en temps des messages comme ça, j'adore. Et moi c'est plus ça que je me mets pas trop en avant dans mes vidéos, Et mais justement là, je passe un peu dans cette phase là où je vais plus me concentrer sur moi, sur mes projets musicaux à moi et passer moins de temps sur les réseaux quoi. Bah, ça prend énormément.
T'as bien raison.
Donc il faut que TikTok reste un side hustle comme on dit.
Ouais. Dans un monde idéal, je pourrais faire les deux à fond, mais je peux pas.
Les journées ne font que 24 heures.
Et puis ça, c'est valable si il y a TikTok, mais en fait, il y a aussi à côté, il y a Instagram, et puis il y a Twitter, et puis.
Ah oui, justement, tiens, petite question. Est-ce que, parce que moi, comme je le disais, je consomme les TikTok sur Twitter.
Ouais.
Parce que contrairement à Instagram, par exemple, dès que quelqu'un poste un truc sur Instagram en dehors du réseau, dès que tu cliques sur le lien, par exemple, sur Twitter, tu cliques sur le lien Instagram, tu te retrouves dans la page de login. Tu vois, ça t'ouvre même pas l'application sur laquelle t'es logué, donc moi, je ferme. Alors que TikTok te permet de consommer le contenu, même quand t'es pas sur la plateforme. Donc ça, je trouve ça cool.
Ça, c'est vrai.
Mais est-ce que du coup, il y a des notions d'exclusivité où rien ne t'empêche de ton TikTok, tu le postes sur YouTube Shorts, Instagram?
Alors, ils aiment pas, tu sais, il y a le fameux watermark.
Ouais, à la fin, là.
Tout le long, même.
Watermark, c'est un petit timbre virtuel.
Un logo de TikTok. Et ça, d'ailleurs, c'était dès le début, il y a eu ça. Et ça a été très fort, parce qu'au début, ils bloquaient pas du tout sur Insta. Tu voyais plein de vidéos, il y avait le petit logo TikTok tout le temps. Et ça, je pense, ça a grandement participé au succès de l'appli aussi. Et oui, et du coup, ce fameux watermark, aujourd'hui, faut le virer. Genre, c'est connu que si tu mets ça sur YouTube, ta vidéo, elle va pas du tout être mise en avant. Pareil sur Insta.
D'accord.
Donc, après, t'as des sites faits pour télécharger une vidéo TikTok sans le logo, justement.
Qui te crop l'image.
Ouais, Snaptic, je crois que ça s'appelle. Tout ça pour dire que oui, il faut virer le logo TikTok quand tu repartages sur d'autres réseaux. Par contre, ce qui se fait beaucoup, vu que maintenant le format TikTok a été adopté par toutes les plateformes, tous les créateurs aujourd'hui font
la vidéo,
la poste sur TikTok, sur Insta, sur YouTube.
Oui, c'est-à-dire que c'est pas la vidéo que t'as postée sur TikTok que tu reprends, c'est que tu postes ta vidéo directement dès le départ sur tous les...
De toute façon, Daz, tu dis-toi que l'ambition TikTok est démesurée. C'est-à-dire que tu vois, tu te demandais est-ce que tu peux poster à côté, etc. L'ambition de TikTok, c'est de faire leur plateforme un point d'accès quasiment unique, pour la musique notamment. Je vais prendre un exemple, c'est, ils ont lancé il y a quelque temps Soundon, donc c'est créé par ByteDance, c'est intégré à TikTok directement, c'est un distributeur musical qui est intégré à TikTok.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est l'équivalent, d'ailleurs ils sont alliés avec TuneCore, avec tous ces distributeurs en fait, qui permettent à tout à chacun, y compris un indépendant comme toi, comme moi, comme Bovary, de mettre en ligne sa musique sur les plateformes de streaming. Et ils ont
accessible à n'importe qui.
Et c'est accessible à n'importe qui.
T'as besoin d'avoir un minimum de vues, d'abonnés.
Alors je crois qu'il y a un minimum et qui est assez bas.
D'accord.
Il me semble. Et en gros, c'est tu t'inscris sur Soundon. C'est pas payant, c'est gratuit dans un premier temps. À partir de la deuxième année, tu donnes 10% de tes royalties. Et en gros, tu t'inscris sur Soundon et tu peux uploader facilement tes musiques sur TikTok, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming, comme ils sont alliés à TuneCore, c'est un distributeur. C'est-à-dire que ça va permettre de mettre ta musique aussi sur Spotify, sur machin, etc. Et en plus, TikTok te propose un accompagnement où, soi-disant, ils mettront ta musique en avant auprès des gros créateurs TikTok, il va y avoir des outils marketing à ta disposition, etc. Et c'est gratuit à partir de la deuxième année, 10% de tes royalties.
D'accord.
Donc c'est pas réellement gratuit en réalité, puisque c'est 10% de tes royalties.
Oui, mais enfin,
mais pas d'abonnement, pas de machin. Et la première année, c'est 100% de tes royalties que tu prends directement sans aucun problème. Mais tu te rends compte, là, ils en arrivent à concurrencer des distributeurs. C'est un autre métier. Hein. Ouais. Et en fait, TikTok est en train de créer un écosystème, notamment dans la musique, qui tend en tout cas à ce que ça devienne un acteur essentiel et pourquoi pas suffisant. Tu vois que tu auras seulement TikTok, quoi.
Ouais. C'est intelligent déjà.
Et tu sais quelle est la première? Il y a un label récemment. Ça s'est fait en février l'année dernière, qui a signé, c'est la première exclusivité de ce distributeur, c'est Death Row.
Non.
tu nous racontes, tu te rappelles ce que c'est Death Row?
Death Row Records, c'était ce qu'ils appelaient le Motown des 90s, c'était évidemment le label de G-Funk qui a produit The Chronic de Dr. Dre, Doggy Style de Snoop, l'album du Dog Pound, plus une ribambelle d'artistes. Qui a mal fini parce que Shug Knight a fini en tôle.
Créateur du label
et gangster notoire a fini en tôle. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'avais vu une émission où tu sais les gens qui ouvrent des box.
Ouais.
Tu sais les box qui sont pas payés, les trucs de stockage et tu viens et tu fais des enchères, tu dis ce box là il est à moi et puis ils ouvrent et tu regardes ce que t'as gagné. Et il y a un mec qui avait retrouvé donc le fauteuil de Death Row Records plus tous les trucs, les disques d'or et tout machin parce que c'était un box qui était plus payé. Et donc le label était complètement tombé en désuétude et là c'est Snoop donc artiste historique du label qui l'a racheté l'année dernière.
Absolument.
Et quand il l'a racheté l'année dernière, tous les albums d'Efro ont disparu des plateformes.
Ouais. Ah oui.
Donc là, maintenant, ce que tu me dis, bah, je comprends
et
ce qui se passe.
Et maintenant, ça vient de revenir. Je sais pas si t'as remarqué que ça vient de revenir.
Donc, ouais, The Chronic est revenu.
Et... parce que c'est via Sundown.
Voilà.
Parce qu'ils ont signé un accord d'exclusivité, que j'imagine qu'il y a eu un énorme chèque.
Ah bah j'ai bah non mais tu vois parce que lui quand il a repris il a sorti un album Snoop hein, qui s'appelait Back on Death Row donc ouais. BODR et ce qui était marrant c'est que lui comme il était à fond dans les NFT ouais. Tout le monde s'est dit putain il va faire les albums Death Row en NFT ça va être insupportable machin le truc a disparu du jour au lendemain ouais. Donc là si tu me dis que ça revient alors c'est via un label TikTok machin c'est cool
ouais, moi, comme du distributeur moment, mais en réalité du c'est dispo sur toutes les plateformes
ça change rien pour l'auditeur ça change rien du tout
exactement c'est juste qu'ils ont dû dealer parce que
est-ce que Doggy Style est revenu du coup
oui absolument je l'ai vu hier. Et en gros, Snoop, en fait, son combat, c'est de dire les plateformes classiques ne rémunèrent pas correctement les artistes.
Ouais.
Nous, on va trouver, c'est pour ça qu'ils avaient retiré dans un premier temps, on va trouver le moyen de faire plus d'argent pour nos artistes, en gros. Mmh, putain, et j'imagine que Sundown, je sais pas si c'est juste temporaire pour ensuite... Parce que moi, j'ai déjà lu des trucs comme quoi ils voudraient faire leur propre plateforme, Death Row, ou leur propre lieu où tu pourrais trouver leur propre musique, etc.
Propre plateforme de streaming.
C'est ce que j'ai cru
comprendre. Oh là là, mais
c'est ambitieux.
Il y a Dog Food.
On verra.
Et donc food. Oh,
tout,
putain, tout
est revenu.
Tout.
Donc je sais pas est-ce que c'est qu'une étape parmi d'autres,
ouais.
Mais en tout cas pour le moment c'est de dire bon on prend un gros billet avec ouais. TikTok, avec Sundown pour mieux rémunérer nos artistes. En tout cas c'est officiellement le discours quoi.
Excellente nouvelle.
Et ben remercie TikTok.
Et ben voilà. comme quoi.
Comme ça.
Incroyable.
Les gars est-ce que vous vouliez rajouter des petits trucs sur tout ça? Est-ce qu'il y a des éléments dont on n'aurait pas parlé qui vous paraissent essentiels? Est-ce que vous avez des questions? Je sais pas.
Non, là, je pense qu'on a...
On a fait un bon tour.
On a fait un bon tour hein, de la plateforme.
Ouais. C'est pas mal,
ouais.
On a dit beaucoup de choses.
C'est bon, on termine avec nos recommandations. Alors, c'est la tradition dans DLT, vous le savez. On termine avec un morceau chacun qu'on vous suggère d'écouter.
Eh ben, je vais changer, du coup.
Tu changes, c'est vrai?
Ah bah oui, je change.
Ah, ça va être un truc de Death Row?
Ah bah évidemment.
Bon, tu sais quoi, je commence avec Bovary.
Vas-y. L'invité first.
Recommandation musicale?
Ouais, qu'est-ce que tu as envie de nous faire découvrir, écouter?
Écoute, moi, c'est de la pure pop. C'est tout ce que je kiffe en tant que production.
Okay.
C'est produit par un mec qui s'appelle Dr. Luke, je sais pas si ça vous dit quelque chose.
Bah évidemment.
Voilà. Qui est pas connu que pour des bonnes choses.
Oui,
voilà,
qui a des casseroles aussi aux fesses, hein. Mais grand producteur.
Voilà, c'est ça. Très grand producteur pop. Et c'est le titre Lottery, L-O-T-E-R-Y.
OK.
De Lota.
Ouais. Lato et je vois aussi Lucala.
Lucala.
OK, très
bien.
Je
connaissais pas, je t'avoue. Mais
Eh ben, on écoute ça. On écoute juste la musique, les gars, on parle pas par-dessus.
Allez,
pour François.
Dédicace, François.
Je me suis permis d'avancer un peu, mais on veut pas Bovary. C'est juste que, comme on veut pas, pour les problèmes de droit, on a des galères régulières.
Okay.
On est obligé de mettre des extraits un peu plus courts. Parfois même, on les enlève parce que.
J'ai compris que t'as pas aimé. Hein.
Non, mais c'est tubesque de ouf.
Ah bah, c'est ça. C'est du bon gros tube calibré.
Absolument.
Pour être un tube.
Non, c'est cool, c'est cool. Ouais. Daz.
Bah écoute, on va s'écouter Big Pimpin', qui est sur la BO de Above the Rim chez Defro Records.
Ah, Above the Rim, évidemment.
Qui est revenu, hein, donc ça fait plaisir. Le deuxième. Parce que
avec Zadok Pound.
Exactement. Woke up one morning out some bomb ass cock. My dick kinda limp, so I cruise around the block. Call my cousin Snoop as I swoop in the coupe. Stop by my homie Blue House to puff on the loop. See my little homie style, who I ain't seen in a while. Damn, they gon' float, no cloud, one night. Liquor store, so I grab some mixed gin and juice. Got a quarter pound of bud, so I'm fucked up too. Oh, babe, she look kinda catty to me.
Permet aussi d'avancer.
Oui,
et puis surtout, j'arrête parce que Snoop, vu comme il est en chien de thune en ce moment, je sens qu'il va nous, il va nous embêter là.
Ouais, Big Pimpin', donc c'est un morceau justement qui est symbolique de l'époque des fraudes des années 90. Avec là, t'avais la totale, hein, donc des congas, des percus, du clavier, Nate Dogg au refrain. Je veux dire,
incroyable.
C'est vraiment le académique,
Nate
le défaut académique.
Nate Dogg, il nous manque.
Rest in peace.
Oui.
Nate.
Bon, bah, c'est bien, on va équilibrer un peu les forces, tu vois. C'est un autre genre musical complètement différent. C'est du blues, c'est Taj Mahal, bluesman américain, les années 70-80 en particulier. Le morceau s'appelle Living Trunk. C'est ultra classique, mais c'est tellement bon, les gars. C'est parti.
Alors, voilà. Très problématique, parce que oui. C'est spatialisé, là. La rythmique à la gauche, la guitare à la droite, ce qui fait que quand t'écoutes sur des enceintes à la combe, tu perds la moitié du morceau.
Ouais. Écoute, c'est un type de production.
Ouais. Non, mais moi je trouve ça très cool, mais le problème c'est qu'en fait, avec les nouveaux moyens d'écoute...
Mono, la nulle,
Ou alors il faut forcer le mono dans Spotify, et c'est chiant aussi.
Non, mais ça c'est très type, d'ailleurs, je savais pas.
Oui.
Ah, ok.
Tu peux le forcer, mais du coup, moi je préférais que ça soit l'enceinte qui adapte. Et qui merge directement le truc, parce que un morceau comme ça, je l'écoute sur mon vélo avec mon enceinte, là, j'ai que la guitare. Hein. Ou que la.
Et ce serait dommage, parce que c'est bien quand même, non?
Oui, c'est très cool. Ça me donne envie de sauter dans un train à vapeur et de jouer de l'harmonica.
Tu sais que je suis retombé sur ce morceau parce que j'ai vu une excellente émission de Arte qui s'appelle Grand Contrôle, qui est fait au Grand Contrôle d'ailleurs. Petit coucou, on avait participé aussi à une émission au Grand Contrôle, etc. Pas avec Arte, mais avec toute la team La Bouclette. Et c'est présenté donc par Chassol, que j'aimerais bien qu'on reçoive un jour dans l'émission, qui est un musicien assez passionnant. Et bref, il discutait avec Ben Harper, et Ben Harper apparemment a une fascination pour Taj Mahal, et il parlait cet artiste, ce bluesman, et il parlait avec Chassol de Taj Mahal. Et donc ils ont mis cet extrait, ce morceau, je fais, mais c'est trop bien, depuis je l'écoute en boucle.
Trop bien.
Les amis...
Ça y est, c'est la fin.
C'est la fin. Un grand merci évidemment à toute l'équipe de La Bouclette. Merci à vous aujourd'hui.
Merci La Bouclette.
Merci Daz.
Merci Salman, merci Bovary.
Merci Léo d'être venu.
Merci les gars.
C'est très cool.
Je vais peut-être m'inscrire moi sur TikTok là, tu vois.
Pour le suivre. Allez. Bon, on en fait un tous les trois semaines apparemment.
C'est pas le meilleur moment. Mais
peut-être où est-ce qu'on peut découvrir ta musique? Donc Bovary, c'est avec 2 V si vous le cherchez sur les réseaux.
Alors je suis producteur, donc j'ai pas de je suis pas un interprète, tu vois.
Oui, mais est-ce qu'il y a un endroit où on retrouve toutes tes productions?
Il faudrait que je fasse ça.
Bah ouais.
Je vais le faire un jour. Je ferai une playlist. Après, c'est encore assez tôt dans ma carrière de producteur, je vais pas vous mentir. Mais un jour, je ferai une playlist avec mes prods, c'est sûr.
Est-ce qu'il y a un truc où on peut t'entendre, soit bientôt, soit un truc déjà sorti?
Tu peux. Le dernier truc qui est sorti, je bosse avec un mec qui s'appelle Medellin, qui est un mec super qui est dans le game depuis. Enfin, c'est un producteur très reconnu dans le milieu.
Okay.
Et je bosse avec lui maintenant depuis quelques temps. Et on a fait une track pour une artiste qui s'appelle Zelie.
Okay.
Z-E-L-I-E.
Ok.
Et la chanson s'appelle Drogue Douce, et c'est en feat avec un rappeur qui s'appelle Genesio. Et voilà. Donc c'est sorti il y a 3 semaines, un truc comme ça.
Drogue Douce.
Et bientôt, de nouveaux trucs qui sortent, si j'ai bien compris.
Ouais.
On peut pas dire.
Non. Je sais pas, en vrai.
Très bien. Bon, merci aussi évidemment à François, notre monteur, qui fait un travail incroyable à chaque fois.
On n'a pas parlé sur les recos. Hein.
On a essayé, t'as vu, j'ai essayé de dire attention et tout. J'avais le fouet prêt au cas où. Et merci Thomas évidemment aussi pour financer cette émission, pour permettre qu'elle existe. Merci à vous aussi quand même de nous écouter,
oui,
nous regarder.
Toujours plus nombreux, avec
absolument.
Des commentaires qui font plaisir. Hein.
Absolument.
Je suis très content.
Et puis parlez-en à vos amis aussi.
Je voulais dire qu'on prend en compte les suggestions, donc notamment on nous a demandé, ça serait cool de faire une playlist avec tous les morceaux que vous passez, que en preview,
on va essayer de faire ça.
Reco. On va faire ça. Il va faire ça.
La question, c'est est-ce qu'on fait une playlist par épisode, mais à ce moment-là, il y aura pas beaucoup de morceaux, ou est-ce qu'on fait une grande playlist DLT, mais ce sera un peu tout mélangé, mais en même temps, il y a juste à piocher. En même temps, c'est l'émission de l'éclectisme DLT.
Moi,
j'ai envie de dire, on pioche.
Faire un fourre-tout, tu vois.
Ouais. Comme cette émission, un peu fourre-tout. En tout cas, on se retrouve dans 15 jours, évidemment, pour un nouvel épisode. On a déjà les invités. Ça va être passionnant. Si vous intéressez un peu au vinyle, la distribution de musique, comment ça se passe, les magasins, le D2C par exemple.
Attends, ce morceau, cette émission sort quand?
Elle sort dimanche dans une semaine, la semaine prochaine.
Le
dimanche
26?
Prochain. Je crois un truc comme ça.
Parce que le 26 mars, au Bastille Design Center, il y a la Paris Vinyle, Paris Loves Vinyle.
Ah!
Une grande foire avec des vinyles à 10 balles max.
Eh bah, écoute, ça va sortir le jour même, c'est ce soir. Allez-y.
Enfin, c'est toute la journée.
Toute la journée. C'est toute la journée. Maintenant, tout de suite.
Vite. Voilà,
coupez
vite.
Cette émission
vite.
Maintenant et allez-y.
Écoutez-la dans le métro.
Voilà. Bon allez, à dans 15 jours tout le monde. Ciao.
Ciao.